fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Nach 6 Monaten Widerstand haben es die Rebellen geschafft. Mit Hilfe der NATO stürzen sie das Gaddafi-Regime. Doch Gaddafi würde bisher nicht gefunden und mobilisiert weiterhin seine Getreuen. Kriegsverbrechen würden von beiden Seiten verübt und vom Amnesty International verurteilt. Zu diesen Kriegsverbrechen zählen auch Folter und Tötungen von Schwarzen. Sie waren Söldner von Gaddafi. Die Mehrheit dieser Afrikaner kam nach Libyen, um zu arbeiten. Nun müssen sie sich verstecken, um nicht gestört zu werden. Gaddafi behauptet, der Westen führe diesen Krieg wegen, um an das Erdöl zu kommen. Auch Sieg von Frankreich ist diese Behauptungen falsch. Denn das libysche Volk hat sich selber erhoben und mehr Gerechtigkeit und Freiheit gefordert. Die Afrikaner reagieren zurückhaltend und sind in der Libyen-Frage gespalten. Unsere heutige Frage und Thema heißt: Ist die militärische Intervention der NATO nötig, um die Demokratie nach Libyen zu bringen? Wir diskutieren diese Frage mit unseren Gästen im Studio am Telefon. Ich bin Sylvain Amos, am Mikrofon. Bonsoir Tripoli, bonsoir Lomé, Yaoundé, Abuja, Bamako, Dakar, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue au programme panafricain de Radio Canal K dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. La colonisation a réalisé un génocide de notre identité, de notre histoire, de notre langue, de nos traditions. Nous ne savons plus si nous sommes des Berbères, des Arabes, des Européens ou des Français. Eh bien, c'est sur cette affirmation du président Bouteflika que nous démarrons tous ensemble avec vous votre émission Fenêtre sur l'Afrique, une émission des débats politiques et culturels africains. La révolution libyenne avec la chute de Muammar Kadhafi suscite toujours de vives réactions au sein de l'opinion africaine qui est divisée sur l'interventionnisme des puissances occidentales dans la résolution de la crise en Libye. Afin d'éclairer les lanternes à nos auditeurs, nous avons réussi à joindre beaucoup d'intervenants et sur le thème de ce soir, l'intervention militaire de l'OTAN était nécessaire pour instaurer la démocratie en Libye. Nous allons donc en débattre dans une quinzaine de minutes avec nos invités panafricanistes, Monsieur Jean-Aimé Mouketou, qui est docteur, et je vais vous le présenter dès qu'il sera tout de suite en téléphone. Et docteur Jean-Aimé Mouketou, d'origine gabonaise, il sera en ligne en direct depuis la France. Docteur Ekwe Yves Amaizo du Togo sera également des nôtres en ligne en direct depuis Vienne en Autriche. Et mais ici même au studio, nous avons docteur André Louembe de la République centrafricaine également au studio et notre confrère, notre ami Kofi Folikou. Vous qui nous suivez en direct sur le www.kanaka.ch, vous pouvez nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission pour participer à ce grand débat en nous appelant donc au 00 41 62 834 90 80. Et bien sûr, sous l'œil vigilant de Gisela Rossato, Josué Maoli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Collaboration Prince Freddy et de Romain Koudodi qui est déjà en ligne depuis Bono. Romain, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères. Mes gratitudes et tous mes saluts fraternels à tous les confrères ici présents au studio.
Merci Romain pour ta parfaite collaboration. Sans oublier évidemment le soutien de nos deux correspondants au Togo, Fabi Kwasi et Rodrigue Lawson. Réalisation, présentation, Sylvain Amos. Avant de commencer le débat proprement dit dans d'une dizaine de minutes, je vous propose tout de suite de suivre l'éditorial de Romain Koudodi. Et bien sûr, Romain Koudodi est en ligne, mais je me ferai le devoir ce soir encore une fois de présenter son éditorial. La France, les voleurs de l'Afrique mis à nu. Nous sommes étrangers à la dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Elle ne peut pas être remboursée. Parce que d'abord, si nous ne payons pas, les bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Thomas Sankara. Le présumé héritier du défunt Jacques Foccart vient de faire une révélation fracassante mettant à nu les pilleurs de l'Afrique en République française. Selon l'avocat Robert Bougie, le système de financement politique occulte dont il a avoué être un acteur sous Chirac a existé aussi sous les présidences Pompidou, Giscard, Tastène et Mitterrand. Jacques Chirac a aussitôt porté plainte pour diffamation, tandis que son ancien secrétaire général et premier ministre indique qu'il le fera très prochainement. De quoi Robert Bougie, 66 ans, les accuse-t-il exactement? D'avoir tout simplement collecté par son intermédiaire entre 1997 et 2005 des fonds émanant de chefs d'État africains, en l'occurrence Omar Bongo Ondimba du Gabon, Théodore Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, Abdoulaye Wade du Sénégal, Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, Blaise Campore du Burkina Faso et Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, a-t-il précisé à France 2 dimanche. Je n'ai aucune preuve. Dans ce domaine-là, il n'y a aucune preuve, aucune trace, a cependant admis l'avocat lundi dernier. Les propos de l'avocat sont en partie seulement confirmés par Mamadou Koulibaly, l'ex-numéro 2 du président ivoirien déchu Laurent Gbagbo. Chers amis auditeurs, ouvrons tous ensemble une parenthèse sur ces révélations. Comme par enchantement, l'ex-président Jacques Chirac, qui allait être jugé pour escroquerie et emploi fictif à la mairie de Paris et qui avait envoyé un certificat médical pour trouble de mémoire, retrouve du coup l'usage de ses facultés et vient de porter plainte contre Bourgie pour diffamation. Que retenir donc? Cela seulement qu'il n'y a pas de corrupteur sans corruption. Que les dirigeants africains pensent que c'est l'Occident qui peut faire le nègre roi et qu'ils s'attellent au développement de leur pays en investissant plus dans leur pays que dans la poche des dirigeants voleurs de l'Afrique. Ceci doit interpeller la conscience de tout un Africain. Et c'était l'éditorial de Romain Koudodi.
There is the
L'Afrique a besoin d'une révolution et une révolution intelligente et jeune, chantée par l'artiste Tikenja Fakoli de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, du thème de ce soir, l'intervention militaire de l'OTAN était nécessaire pour instaurer la démocratie en Libye. Nous allons d'abord prendre tout de suite en ligne, en direct depuis Lomé, notre correspondant Rodrigue Lawson pour le point sur l'actualité politique au Togo. Rodrigue Lawson, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Mousse, bonsoir aux auditeurs de Radio Canal K.
Rodrigue, merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Patchanya Singbe, demi-frère du président de la République, Fokonya Singbe, a été condamné jeudi dernier à 20 ans de réclusion criminelle et la confiscation de ses biens dans le procès de l'atteinte à la sûreté de l'État. Alors, Rodrigue Lawson, les avocats de la défense évoquent déjà une parodie de justice.
Oui, tout à fait. Le procès de complot d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État a connu son épilogue jeudi en début d'après-midi. La chambre judiciaire de la Cour suprême de Lomé envoie donc Patchanya Singbe en prison pour 20 ans. 11 autres co-accusés sont lourdement condamnés et 20 autres relaxés. Après plus de 2 semaines de procès à révélation terrible, le juge Abalo Petchelbia a condamné Patchanya Singbe à 20 ans de réclusion assortie d'une déchéance civique qui est la confiscation générale. Le chef d'escadron Ati Abi, le général Hassani Tijani et le sieur Najjar Bassam ont également écopé de la même peine chacun. Pour ce qui est des prévenus Koutema et de Kouma, ils écopent chacun de 15 ans de réclusion alors que leurs compagnons de malheur, Seydou Oubakiti, Nassimbe Solizam, Tingilou Chondou et Sassou Fossassouvi ont été condamnés chacun à 10 ans de prison ferme. Quant aux prévenus Adinokos Silambert et Pali Afindilou, ils auront à purger une peine de 5 ans de prison ferme. Les autres prévenus accusés de complicité de complot entre autres, dont les peines varient de 12 à 23 mois avec un an de sursis. Ils recouvrent la liberté étant donné justement que leur détention a couvert leur peine retenue contre eux. Il faut préciser à Mousse que pour en arriver là, juge Petchelbia Balo, par des arguments généralement non convaincants, a rejeté les pertinentes exceptions évoquées par la défense pour exiger l'annulation de la procédure et de la mise en liberté de leurs clients. Pour ce qui est des cas de torture subis à l'Agence nationale de renseignement ANR, par exemple, il a prétesté de l'absence des fiches de santé des prévenus torturés pour balayer d'un revers de main les préoccupations de la défense sur ce point. Au regard donc des différentes pistes de procédure relevées par les avocats de la défense, mais rejetées par la Cour, cette condamnation n'a surpris personne. Pour beaucoup d'observateurs, ont eu à dire que des inconduites des responsables de la Cour, notamment Abalo Petchelbia et ses compères, sont en mission commandée et quelle que soit la plaidoirie de la défense, le verdict serait le même. Les avocats de la partie civile se disent globalement satisfaits et réaffirment que Patchanya Singbe voulait en effet renverser l'autorité. Et selon Maître Lionel Sambi, que nous avons constaté, l'un des avocats de la partie civile, le procès a été équitable. Bien entendu, dans le rang de la défense, c'est la désolation, la grande déception. Les exceptions soulevées n'ont été prises en compte. C'est triste pour la justice togolaise, nous a confié Maître Gilles Benoît-Fangbedi à l'un des conseils de Patchanya Singbe, co-accusé Sylvain.
Le dialogue entre pouvoir et opposition a repris cette semaine à Lomé au Togo sans l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, qui conteste également sa nomination par Fokonya Singbe comme membre du CPDC rénové.
Oui, c'est ça. Dans le cadre donc de la relance du dialogue, comme annoncé dans le cadre d'un comité permanent de dialogue et de concertation CPDC rénové, l'invitation a été adressée par le Premier ministre aux membres nommés au terme du décret présidentiel pris en Conseil des ministres. Gilbert Ngo a donc rencontré les membres ce jeudi 15 septembre à la primature, mais l'Alliance nationale pour le changement, vous l'avez dit, ANC, n'a pas répondu à cette invitation. Dans un communiqué rendu public, le parti de Jean-Pierre Fabre rappelle qu'elle subordonne toute discussion politique avec le régime RPT à la réalisation d'un certain nombre de préalables, parmi lesquels le retour sans condition à l'Assemblée nationale des 9 députés révoqués de leur mandat parlementaire en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution de la République togolaise. L'ANC constate que malgré cette position maintes fois exprimée, elle est unilatéralement nommée par le pouvoir PT dans un CPDC prétendument renouvelé. L'ANC en tout cas réitère fermement ses préalables qui sont restés à ce jour lettre morte. Dans ces conditions, l'ANC n'est partie prenante d'aucune discussion. Le CAR également, le comité d'action pour le renouveau, le comité d'action pour le renouveau n'a pas lui aussi répondu à l'invitation. Quant à Guillaume Kodjo, président national de l'organisation pour bâtir dans l'Union Togo solidaire au but, il a formulé une réserve sur la façon dont la nomination est intervenue et demande au chef de l'État une clarification. Et pour Guillaume Kodjo, Fauna Simbé cherche désespérément à reprendre la main avant la tenue de la 22e Assemblée parlementaire paritaire CPE prévue du 19 au 23 novembre prochain à Lomé. C'est dans ce schéma pour Guillaume Kodjo que Fauna Simbé multiplie actuellement les initiatives perverses de saupoudrage médiatique pour tenter de masquer, selon les termes d'Guillaume Kodjo, la grave crise sociopolitique qui traverse le Togo en lieu et place d'une véritable ouverture pour l'émergence d'une société de confiance démocratique et de prospérité partagée.
Oui, et Rodrigue Lawson, les audiences publiques de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, commencées depuis quelques jours à Lomé au Togo, mais rencontrent beaucoup de difficultés à poursuivre ces travaux. Certains Togolais pensent même que sans alternance politique, il ne peut y avoir une vraie réconciliation au Togo, Rodrigue Lawson.
Oui, Sylvain, c'est comme si vous êtes sur place au Togo. Les audiences publiques à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation ont pris un sérieux coup avec l'intervention inopinée des forces armées togolaises le 13 septembre dernier, entamées donc le 6 septembre. Ces audiences publiques noyées par le procès de Patania Simbé, on va le dire, ont retenu peu l'attention des Togolais. Les témoignages épistolaires de Maître Joseph Kwaku Kofigo sur l'attaque de la primature le 3 décembre 91 et la tragédie, souvenez-vous, la boucherie ou encore l'horreur absolue de la lagune de Baie de 91 ont fait sortir les forces armées togolaises de leur garnison. Elles ont apporté un droit de réponse à ces deux événements, démontant donc la responsabilité des forces armées togolaises dans ces deux événements. Le lieutenant-colonel Gibril, porte-parole des forces armées togolaises, l'a affirmé à la commission le 13 dernier, date que prennent fin les premières audiences de l'OMM. Sentant donc sa mission hypothéquée, et Mgr Nicodème Bariga Bénissant saisit le chef de l'État qui a convoqué une réunion illico presto à laquelle ont participé les membres de la commission, l'armée et quelques ministres. Aussi à cette réunion, Mgr Bariga a demandé la diffusion en direct des audiences, la couverture médiatique et surtout un contrôle minutieux des corps habillés dans ce genre d'événements. Conséquence donc de cette irruption des forces armées togolaises, la commission a reporté pour une semaine sa seconde session de Dapaon. À cette allure, on se demande, beaucoup de Togolais se demandent alors si cette réconciliation en fils et filles du Togo serait-elle possible, surtout avec les militaires, quelle serait leur réaction lorsqu'on touchera la question, l'épineuse question des violences électorales 2005. L'autre obstacle à cette réconciliation, Sylvain, reste la mauvaise foi, on va le dire, du prélame qui a accepté malgré tout sous le régime quarantenaire à conduire cette réconciliation en Afrique du Sud. Vous vous rappelez, ce n'est pas le régime apartheid qui a organisé cette audience, mais le régime de Mandela. Et l'autre obstacle non négligeable aussi, Sylvain, c'est l'indifférence totale de la population à qui cette kermesse ou cette foire, si vous voulez, de Mgr Bariga ne dit rien. Comment peut-on comprendre qu'on veut réconcilier un peuple et ce dernier n'est pas au courant de tout ce qui se dit aux audiences, ces auditions devenues une conférence de presse aux journalistes et membres de la CVJR à Nîmes. Voilà donc tout ce qu'on peut dire, Sylvain Amos, sur ces audiences publiques.
Rudy Loxon, merci. Après la Tunisie, l'Égypte, la Libye a été secouée par le vent de la révolution arabe. Celle de la Libye a commencé le 15 février 2011. Ce conflit armé, issu d'un mouvement de contestation populaire assorti de revendications sociales et politiques, a fait des milliers de morts et de déplacés. Des Libyens qui, selon des informations, ne manquaient pas pratiquement de quoi vivre, comme beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, inspirés et poussés par le temps et par le printemps arabe, demandent dès lors plus de liberté, plus de démocratie et surtout une meilleure répartition des richesses. Il est à rappeler que la Libye fait partie des plus grands producteurs de pétrole dans le monde et Muammar Kadhafi est le plus ancien dirigeant du monde arabe, toujours en fonction, soit près de 42 ans de règne. Lorsque la rébellion a commencé en Libye, Kadhafi tenait à tout prix à son pouvoir et à la souveraineté de la Libye et taxe alors les révoltants du rat manipulés par l'Occident, dont la France, les USA et l'Angleterre. Le guide libyen intensifie alors les répressions et pousse les rebelles qui ont
qui ont concentré leur camp à Benghazi. Et pour sauver des milliers de vies massacrées par Kadhafi en Libye, le 17 mars, le Conseil de sécurité des États-Unis adopte la résolution 1973 autorisant donc l'OTAN à engager des frappes aériennes contre les forces de Kadhafi. C'est le début d'un carnage en Libye. Assimilés aux mercenaires de Kadhafi, les Africains qui ont la peau noire en Libye sont torturés et emprisonnés. D'autres privés de nourriture sont obligés de se cacher afin de sauver leur peau. Amnesty International, dans un rapport rendu public tout récemment, accuse les pro-Kadhafi et épingle également le CNT, Comité National de Transition, pour de nombreuses actions au cours de leur progression vers Libye, la capitale libyenne. Le CNT, qui n'est pas jusque-là reconnu par la plupart des pays africains, sera-t-il capable de réconcilier les Libyens? L'intervention militaire de l'OTAN est-elle vraiment nécessaire pour instaurer la paix et la démocratie en Libye? Ce sont là des questions que se posent beaucoup d'Africains et qui seront les sujets essentiels de notre débat de ce soir dans quelques instants dans Fenêtre sur l'Afrique.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Eh bien, vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Le débat annoncé est déjà prêt. Hein. Je pense que quand je dis que le débat est prêt, ça veut dire que tous nos invités ont répondu à notre invitation. À la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique, on est très soulagés. Et ceci étant, nous avons tout de suite en ligne en France, en direct, nous avons Monsieur Jean-Aimé Mouketou. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Sylvain Amos.
Je rappelle à nos auditeurs que Jean-Aimé Mouketou est docteur en géographie à l'Université Paris 7, professeur qualifié pour l'enseignement en Nouvelle-Écosse au Canada. Nous avons également en direct depuis Vienne, docteur Yves Ekwe Amaizo. Bonsoir, Yves Ekwe Amaizo. Bonsoir.
Oui, vous m'entendez? Bonsoir, monsieur.
On vous attend correctement. Ouais. Comment allez-vous, docteur?
Mais ça va bien, je vous remercie pour l'invitation.
Mm-hmm. Et docteur Yves Ekwe Amaizo, je le disais, il est docteur en économie, consultant international et directeur du groupe de réflexion et d'action Afrologie. Ici même au studio, nous avons monsieur André Lombé. André Lombé, bonsoir.
Bonsoir.
André Lombé est centrafricain, il est docteur en ingénieur en télécommunications. Il est également vice-président du CRAN, carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir, et basé ici même en Suisse, à Berne. Nous avons également le grand frère Kofi Folikpo, il est porte-parole de la diaspora, et il est plutôt coordinateur de Pyramid of Yv. Et Gilbert Koussi, qui est porte-parole de la diaspora béninoise en France, membre influent du PCB, Parti communiste, nous rejoindra et plus tard dans cette émission. Alors, ceci étant dit, nous allons poser la toute première question qui est le thème de ce soir. Et est-ce que, je m'adresse tout de suite au docteur Jean-Aimé Mouketou, est-ce que l'intervention militaire de l'OTAN était nécessaire pour instaurer la démocratie en Libye, docteur Mouketou?
Oui, merci, monsieur Sylvain Amos, de m'avoir invité. Alors, pour répondre à votre question, pour ce qui me concerne, je suis un démocrate. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. La démocratie n'a pas besoin des armes. Donc, pour être clair, monsieur Sylvain Amos, je suis contre toute intervention militaire qui va dans le sens de la destruction, des pertes, si vous voulez, donc des êtres humains. Ce que nous avons vu en Libye, aujourd'hui on parle des Libyens qui ont été tués par le dictateur, comme on le dit entre guillemets ici, M. Kadhafi, mais aujourd'hui on ne parle pas de tous ces Libyens qui ont été tués par les avions de l'OTAN. Donc voilà pour l'instant ce que je peux dire. Alors si la France, ça c'est mon mot d'introduction, et d'autres pays occidentaux se réjouissent d'avoir déposé ce qu'ils appellent la dictature libyenne, je voudrais poser deux problématiques, si vous voulez. Pourquoi ne continue-t-il pas leur logique en mettant comme prochaine cible le Gabon, le Togo, le Cameroun, le Burkina Faso, qui sont dirigés par des véritables sanguinaires, des dictateurs. Ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique et la dernière. Y aurait-il, M. Sylvain Amos, une conception de la dictature à géométrie variable lorsqu'il s'agit de l'Afrique et certains précaires? Voilà ce que je peux dire, M. Amos, pour l'instant.
Merci, docteur Jean-Aimé Mouktou depuis la France. Et docteur Yves Kouyamaizo, je vous pose la même question. Est-ce que l'intervention militaire de l'OTAN était nécessaire pour instaurer la démocratie en Libye, docteur Yves Kouyamaizo?
Vous savez, il faut peut-être remettre tout ceci en perspective. Nous avons des informations assez crédibles qui estiment que l'attaque de la Libye par la coalition occidentale avait été programmé depuis 2002. Je dis bien 2002, c'est-à-dire bien avant les mouvements du printemps arabe, et bien avant les insurrections ici et là dans le monde maghrébin. Il faut donc s'interroger sur les motivations des pays occidentaux, notamment leurs dirigeants. Ce qui pose le problème qu'a soulevé le premier interlocuteur, est-ce que ces gens-là cherchent la démocratie ? Ou bien, compte tenu des déficits budgétaires relativement importants, une croissance faible qui risque de les amener à une récession économique dans l'année qui suit peut-être, il leur faut un accès aux matières premières, pétrole, gaz, marché de reconstruction et autres, assez rapide. Et donc, on a assisté à deux choses. La première, c'est une communication qui se fait en Occident, qui dit bien sûr qu'on fait tout ceci pour la démocratie, ce qui revient à votre question, et qui a amené la résolution des Nations Unies, 1973, qui d'ailleurs disait simplement de protéger des civils. Mais vous avez vu qu'on a outrepassé cette décision, qui d'ailleurs a été appuyée par trois pays africains, l'Afrique du Sud, le Gabon et le Nigeria, qui disent aujourd'hui qu'ils se sont fait, qu'ils ont été trompés. Et quand l'OTAN donc a outrepassé, l'OTAN a simplement continué pour aller vers le départ du guide libyen, Muammar Kadhafi. Si on se contente de regarder les faits aujourd'hui, hein, en sachant qu'il y a eu beaucoup d'escarmouches aujourd'hui au niveau de Sirte, c'est la guerre. C'est la guerre sur le terrain. On est loin d'une paix civile, on est loin d'un espace où on peut tenir des élections libres, sécurisées, transparentes et fiables. Donc il reste à savoir, est-ce que c'est le peuple libyen qui a fait partir Muammar Kadhafi, ou si c'est la coalition de l'OTAN avec ses bombardements qui a contribué ou l'a fait. Je pense qu'il s'agit des deux, et c'est cela qui explique la protection de Kadhafi aujourd'hui par une partie assez importante de son peuple qui lui est resté fidèle. Donc je crois qu'il vaut mieux être prudent et de parler effectivement d'un départ de Muammar Kadhafi. Mais il faut s'interroger sur qui dirige actuellement la Libye, si on exclut le rôle vraiment prépondérant de la France et du Royaume-Uni, sous l'œil vigilant des États-Unis d'ailleurs, pour le CNT, donc le Conseil national des transitions, qui d'ailleurs ne nous a toujours pas dit quelle est la durée de cette transition, et quand est-ce que les autres parties de la Libye qui ont accepté de faire partir Kadhafi vont participer donc au CNT, et donc gérer de manière commune, sous forme d'assemblée constituante, par exemple, donc démocratique, de ce pays.
Oui, docteur Yves Kouyamaizo, merci beaucoup. Restez toujours en ligne avec nous. Et docteur Aimé Mouketou, écoutez, la révolution libyenne commencée depuis le 15 février 2011 s'est soldée par la chute du guide libyen avec l'appui de l'OTAN aux insurgés. Alors, peut-on parler d'une victoire de la démocratie en Libye, et comme le prétend le président français Nicolas Sarkozy en visite dernier jeudi dernier à Tripoli et docteur Imouketou?
Non, monsieur Sylvain Amos, on ne peut pas parler d'une victoire de la démocratie en Libye, comme je le disais, parce que quoi, vous avez vu tous ces morts, tous ces Libyens qui sont morts. Pourquoi sont-ils morts? J'ai suivi, Monsieur Amaïzo, c'est ça, oui, qui vient de...
Oui, docteur Amaïzo, oui, exactement.
Amaïzo, pardon, qui vient de présenter, si vous voulez, donc ses analyses aussi pertinentes. Parler de victoire aujourd'hui, c'est pas possible. La situation n'est pas encore suffisamment stabilisée. Vous voyez, aujourd'hui, on a vu le président Sarkozy, le premier ministre britanniques qui sont allés en Libye. On ne peut pas parler de victoire. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ce qui s'est passé au début des indépendances, c'est-à-dire au début des années 1960. Si vous voyez les présidents qui ont été imposés aux différents États de l'Afrique noire, vous pouvez prendre le Togo, vous pouvez prendre le Gabon, vous pouvez prendre les autres pays de l'Afrique noire. C'était, si vous voulez, donc la France qui avait installé presque ses valets, vous me permettez l'expression, ses procès à la tête de nos États. Aujourd'hui, ces anciennes puissances coloniales ne font que reprendre l'ancienne stratégie qui avait été utilisée durant cette période pour installer d'autres valets. Vous pensez, comme le disait le docteur Amaïzo, vous pensez que ceux qui ont été installés à la tête de la Libye, vous pensez que ceux-là peuvent diriger la Libye de façon démocratique? Je ne pense pas, je ne le crois même pas. Donc aujourd'hui, quand M. Sarkozy va en Libye, si vous écoutez ce qu'il a dit, il est même sceptique par rapport à ce qu'ils ont eu à faire. Il y a un doute dans son discours qu'il a prononcé en Libye. Si vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Nous croyons dans la Libye unie, pas dans la Libye divisée. Parce qu'ils savent que la situation n'est pas encore maîtrisée en Libye. En Libye, aujourd'hui, on ne peut pas, M. Sylvain Amos, parler de victoire démocratique, comme le prétend, si vous voulez donc, le président Nicolas Sarkozy, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. La révolution, ce que vous appelez, ce que beaucoup de journalistes appellent la révolution libyenne, n'est pas une révolution populaire. Il y a une différence entre la révolution et l'insurrection. Mmh. Vous avez eu une insurrection
préparée. Mmh. Docteur Mouketou, nous allons revenir, on a beaucoup de temps pour ce débat, on va revenir sur ça. Avant de laisser nos invités qui sont au studio, en l'occurrence Dr André Luembe et Kofi Folikpo, de réagir, je vais poser encore la même question au Dr Yves Kouyamaïzo. Dr Yves Kouyamaïzo, est-ce qu'on peut parler d'une victoire de la démocratie en Libye, comme le prétend le président français Nicolas Sarkozy?
Non, je crois que vous avez eu la réponse. Victoire, c'est il faut bien écouter M. Sarkozy. Non seulement il doute, mais beaucoup plus grave, il y a une fuite en avant. La fuite en avant s'explique par le fait qu'il a certainement été très mal informé sur la façon dont fonctionne la démocratie locale en Libye. J'ai été expert pour Kadhafi dans le temps, sur l'Union africaine, et il faut savoir qu'il y a une démocratie locale qui a fonctionné. Ici, on dit que c'est sur des bases tribales, des bases ethniques, mais ça fonctionnait. C'était des comités populaires. Et c'était très indépendant. Et chacun devait choisir son principal responsable qui, ensuite, entre eux, choisissait ce qu'ils appellent le guide. Alors, quand eux tous se sont réunis à peu près un mois et demi pour décider que ce guide doit partir parce que sa présence va ramener des bombardements et une destruction du pays, je crois pouvoir dire aujourd'hui que avec ou sans les bombardements, ce pays allait réussir de manière pacifique à faire partir le guide Kadhafi. Maintenant, les bombes sont venues. Et on faut justifier cela. C'est pour ça que je vous parle de communication tout à l'heure. Et donc, on nous a dit que c'est pour la démocratie. Donc, mon prédécesseur l'a déjà dit. Il n'y a pas de démocratie. Il ne faut pas revenir là-dessus. Il faut plutôt regarder quelles sont les techniques qui sont utilisées en utilisant comme point de mire la démocratie pour sélectivement, donc comme je dirais l'immigration choisie, là c'est dictature choisie, on va décider qui on garde, qui on ne garde pas. Parce qu'en réalité, il faut revenir au dossier tunisien où la France a eu un échec relativement cuisant. Mauvaise analyse, mauvaise information, soutien du dictateur en place et perte d'estime, de valeur dans le monde. Il fallait donc rattraper cela. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met un système transitoire en place, généralement avec des militaires en sous-main. On le refait avec l'Égypte, et là, les militaires carrément tirent dans la foule.
Mmh.
Et là, on essaie de le refaire ici, c'est pour ça que le mot utilisé, insurrection, est très exact.
Mmh. Merci, docteur Yves Kouamézou. Restez toujours avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique où nous débattons du thème. L'intervention militaire de l'OTAN était nécessaire pour instaurer la démocratie en Libye. Et je rappelle que vous êtes en direct depuis Vienne en Autriche. Nous avons également en direct depuis la France, docteur Aimé Moukitchou. Et nous allons maintenant laisser réagir nos invités qui sont au studio et docteur André Lomé. Et rebonsoir, docteur.
Bonsoir, Sylvain Amos, merci de m'avoir invité, de participer à ces échanges et aux réflexions. Je crois que l'Ukraine avait envoyé, avait fait une pétition, et cette pétition accusait l'ONU, les Nations Unies. Nous parlons aujourd'hui, disons, c'est les Nations Unies qui ont pris une décision contre un État souverain. Aujourd'hui, nous parlons de l'OTAN. La question que j'aimerais poser, que nous devons élucider avant de commencer ce débat, est-ce que l'OTAN s'est substitué aux Nations Unies? Ça, c'est la première question. La deuxième question, les porte-parole de l'OTAN sont-ils les présidents français et le président anglais et autres? Où sont les autres membres, les États membres des États-Unis? De l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est la première des choses. Nous voyons qu'il y a eu une usurpation où une force, une coalition s'est formée pour agresser un pays. Et dans cette agression, nous voyons que nous retrouvons le schéma de ce qui a été fait durant la période coloniale où on a mis des gens à la tête des États pour exploiter ces États. Nous sommes dans ce scénario et comme l'a bien expliqué mes deux prédécesseurs, nous avons une insurrection ici. Nous ne pouvons pas parler de démocratie. Dans tous les cas, pas du tout.
Merci, docteur André Lombé. Kofi Folikpo.
Merci, Sylvain, et merci à Radio-Canal K pour cette invitation. Pour aller dans le même sens que mon frère Lombé, je vais plutôt poser la question de savoir si l'OTAN se substitue aujourd'hui à l'institution des casques bleus au sein de l'ONU, parce que nous savons que à la création de l'ONU dans les années 1940, juste après la Deuxième Guerre mondiale, bon, on a pensé donc à sauvegarder la paix au niveau mondial et on avait donc institué au sein de l'ONU les casques bleus qui avaient pour mission d'intervenir dans tous les pays membres qui étaient secoués par des crises internes. Bon, mais aujourd'hui, on fait face à une situation dans laquelle une institution dénommée OTAN, qui a été mise en place rien que par des pays occidentaux, assume plutôt les fonctions qui, en principe, devaient être assumées par les casques bleus. Alors, mais la question revient de savoir si l'OTAN aujourd'hui est une institution inféodée à l'ONU.
Nous allons y répondre à cette question tout au long de cette émission. Et avant que, je pense que Monsieur André Lombé veut dire quelque chose, mais nous allons prendre tout de suite encore. Nous allons retourner vers l'Autriche à Vienne. Et j'espère que Docteur Yves Kouamézou est toujours en ligne.
Oui, je suis là.
Oui, docteur Yves Kouyamaïso. Alors, Mouammar Kadhafi, pour beaucoup d'Africains, et même sur le plan international, fait les frais de son refus de s'agenouiller devant les puissances occidentales qui convoitent le pétrole libyen. Alors, sans langue de bois, docteur, dites-nous, selon vous, pourquoi on assiste aujourd'hui à cet interventionnisme des puissances occidentales dans la révolution libyenne, docteur?
Merci beaucoup. Je vais répondre, et tous ces thèmes se sont liés, hein, l'interventionnisme, la notion de substitution de l'OTAN à l'ONU, le fait que, est-ce que l'OTAN se substitue au casque bleu, tout ça, ça se lie. Je crois que pour bien comprendre, il faut simplifier pour les auditeurs. L'OTAN n'est qu'une structure commune des pays riches ou membres occidentaux pour, entre guillemets, officiellement se protéger. Il faut très bien comprendre ça. C'est une armée mise à la disposition des pays riches. Maintenant, pour pouvoir agir, pour intervenir dans un pays, on parle d'interventionnisme, il faut une autorisation légale. On passe donc à l'ONU, le secrétaire général à qui on fait une demande. Maintenant, qui fait la demande? Ce sont des États, la France en l'occurrence, mais d'autres l'ont fait. Et donc, l'Afrique avait la possibilité de dire non, puisque dans les chartes de l'Union africaine, l'ensemble des chefs d'État africains, pour une fois qu'il y a eu unité, c'est de refuser qu'il y ait la guerre en Afrique, et plus particulièrement l'interventionnisme en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tous étaient d'accord, je parle des chefs d'État africains, au niveau de l'Union africaine, de ne pas faire la guerre, de ne pas accepter d'interventionnisme sur le sol africain, par les forces externes, trois d'entre eux qui représentaient l'Afrique, je rappelle Nigeria, Gabon et l'Afrique du Sud, entre parenthèses, M. Zuma avait eu une petite visite à Paris avant d'aller aux États-Unis à New York, mais ils ont changé leur position. Ils ont changé leur position comment? C'est qu'au moment où on discutait et on écrivait cette résolution 1973 des Nations Unies, la façon de rédiger et la façon de les informer, la façon de traduire le contenu de cette résolution peut être trompeur. Et peut être trompeuse. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a simplement dit qu'on va, au fond, aller protéger des civils. Ce qui est très acceptable pour les trois Africains qui votaient et pour l'ensemble des 15 au Conseil de sécurité. Sauf que la compréhension de cette histoire ne se limitait pas aux civils. Et sur le plan juridique, il n'y avait pas de sanctions si vous ne respectez pas les résolutions. Sachez qu'il y a beaucoup de résolutions des Nations Unies qui ne sont pas respectées. Il suffit de prendre la Palestine. Ou même Israël, d'ailleurs. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas un automatisme que, quand il y a une décision donc des Nations Unies, l'OTAN, à qui on a certainement sous-traité le travail, puisse agir. Une petite précision. Sachez que, à ce moment précis, entrer en guerre, donc un interventionnisme avec la Libye, suppose la décision des parlements. Le parlement américain, le Congrès, le parlement français et le parlement anglais. Et donc, pour éviter ce travail qui, d'abord, est long, et risque d'obtenir, de déboucher sur un non de la part des parlementaires, hein, ne serait-ce que pour des histoires d'argent, on a préféré prendre l'OTAN. On trouve une structure de substitution. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'était différent parce qu'on pouvait alors mettre dans les casques bleus, pour répondre à la question de M. Folibeau, on pouvait mettre dans le casque bleu un certain nombre assez important d'ailleurs, d'intervenants français, mais qui enlevaient leur casquette française pour devenir une casquette casquette bleue des Nations Unies. Mais l'essentiel est là. Et sachez que derrière, il y a un budget. Donc celui qui va financer ce budget, s'il se trouve être 80-90% français et Grande-Bretagne, éventuellement les États-Unis, vous comprenez que ce sont leurs gens qui vont y aller. Maintenant, sur le terrain, mais vous pouvez avoir des gens qui n'ont peut-être pas cette nationalité. Il y a les légions arabes, les légions étrangères. Il y a beaucoup de monde dans cette histoire. Donc,
docteur, je ne vous retire pas la parole. On a encore le temps, jusqu'à encore à 40 minutes. Hein. Alors, restez toujours en direct avec nous depuis Vienne.
Laissez-moi finir votre question malgré tout.
Allez-y.
Alors,
donc,
ça, c'était pour les questions de M. Poligo et M. Louambé. Alors, vous avez posé une autre question sur Kadhafi. Vous dites, il ne faut pas avoir la langue de bois. Écoutez, d'abord, je n'ai jamais la langue de bois. et la deuxième chose, il faut bien comprendre ce qui se passe. Si l'assistante était pour les populations civiles, pourquoi à un moment donné, puisqu'il y avait une décision de Kadhafi et de l'ensemble de ses groupes, de ne plus attaquer Benghazi? Ça, c'est documenté. On sait que c'était comme ça. Pourquoi alors l'OTAN a outrepassé sa fonction et a changé de cap pour alors demander de faire sauter Kadhafi. C'est pour ça que le mot insurrection est très important, parce que je ne pense pas du tout une force en présence chez Benghazi à aller changer quoi que ce soit. Donc Kadhafi, en fait, a fait une grosse erreur, et comme font toutes les dictatures d'ailleurs, c'est de ne pas comprendre que, un, il y a une soif de liberté dans l'ensemble des pays, en Libye en particulier, deux, que Benghazi a toujours été dans l'opposition, il fallait simplement s'assurer que Benghazi profitait de la manne pétrolière, ce qui n'était pas le cas, et trois, il ne fallait pas annoncer tout haut, publiquement, qu'il allait en fait zigouiller les populations dans cette zone-là. Ces trois éléments l'ont finalement condamné aux yeux des Occidentaux et qui ont justifié donc cet interventionnisme tel qu'il se passe aujourd'hui et qui, bien sûr, a sorti un peu des canevas que l'ONU avait dressés.
Docteur Yves Kouyamaïso, merci beaucoup pour vos explications et développements. Nous allons laisser maintenant réagir aussi Docteur Aimé Mouketou depuis la France. J'espère qu'il est toujours en ligne. Docteur, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, M. Sylvain Amos.
Oui, et docteur Mouketou, dites-nous concrètement, selon vous, pourquoi on insiste aujourd'hui à cet interventionnisme des puissances occidentales dans la révolution libyenne?
M. Sylvain Amos, comme vos auditeurs, je suis certain, ils le savent, que M. Kadhafi, je l'ai déjà dit sur vos antennes, que ce monsieur, aux yeux d'une certaine élite politique, est un président dangereux. Pourquoi il est dangereux pour cette élite, cette certaine élite politique occidentale? Parce que vous voyez, aujourd'hui, M. Kadhafi, il est sanctionné par cette élite à cause de quoi, M. Sylvain Amos? À cause de sa vision de modernité, à cause de sa vision révolutionnaire. Je vous prends un exemple, vous savez ce qui s'est passé en 1992, lorsque l'ensemble, je dirais, des États de l'Afrique, je crois 45 États de l'Afrique, ont décidé de mettre en place une société qu'on appelle RASCOM, vous voyez, pour que nos États disposent d'un satellite africain et faire chuter les coûts de communication sur notre continent. Qui est à l'origine de cette idée? Mais c'est M. Kadhafi. C'est M. Kadhafi, aujourd'hui, qui est sanctionné à cause de sa vision technologique. Il veut faire de l'Afrique, il voulait faire de l'Afrique un pays indépendant sur le plan technologique. Vous voyez, par exemple, quand certaines puissances, parce qu'il ne faut pas citer toutes les puissances occidentales, quand Kadhafi décide de mettre en place ce premier satellite africain qu'on appelle RASCOM 1, vous saviez? Qu'est-ce que l'Afrique devait bénéficier? Vous savez, par exemple, que pour téléphoner depuis Lomé, vous voulez appeler en France, je crois que vous connaissez les prix de communication, les coûts de communication, c'est très cher. Pour appeler de certains États occidentaux vers le Togo, par exemple, ou bien vers d'autres États, ça coûte très cher. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est très cher pour nos États qui payait M. Amos $500 millions à l'Europe. C'est l'Europe qui encaissait ces $500 millions annuellement sur les conversations qui sont faites, conversations téléphoniques qui sont faites dans nos États, même à l'intérieur même de nos pays africains, vous voyez? Donc, pour ces États-là, vous voyez, mettre en place cette révolution technologique qui a été mise par M. Kadhafi, c'était, si vous voulez, donc un crime pour ce président. Aujourd'hui, nous savons tous que la plupart des États occidentaux qui vont intervenir, si vous voulez, donc en Libye, mais ce n'est pas pour la démocratie, c'est pour maîtriser le pétrole libyen. Vous voyez, c'est pour maîtriser la Libye. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous sommes au 21e siècle, qu'un chef d'État français dise que, voilà, la mission de l'OTAN va se poursuivre jusqu'à la libération complète du territoire. Vous voyez, mais comment un pays occidental, même s'il est puissant, peut décider d'aller libérer un pays? Ce sont des pays, n'oublions pas que nos États, il me semble que nos États sont indépendants. Pouvez-vous imaginer un seul instant, M. Sylvain Amos, que la France, soit attaqué par exemple aujourd'hui par l'Allemagne parce qu'il y a eu des émeutes dans une banlieue, si vous voulez donc, parisienne. Vous voyez ? Alors aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que on nous parle de démocratie en Libye alors que nous savons tous que au Togo, au Gabon, etc. et dans d'autres pays, la démocratie n'existe pas. Donc, in fine, je vous dirais tout simplement, M. Amos, que M. Kadhafi, aujourd'hui, comme vous le dites, sans langue de bois, a été sanctionné par certaines puissances occidentales à cause de sa vision de modernité, sa vision de révolution. Voilà.
Docteur Aimé Mougoutu, merci beaucoup. Restez toujours en ligne, en direct avec nous dans ce grand débat et sur la guerre en Libye. Je rappelle que vous êtes en direct depuis la France. Eh bien, avant de continuer cette émission, ce débat, et nous allons écouter maintenant la position de l'un de nos auditeurs et que nous avons enregistré 45 minutes avant cette émission. Et Nassirou Aliou soutient que Kadhafi a soutenu les dictateurs africains, dont pour lui, Kadhafi est un dictateur, est un handicap pour la démocratie en Afrique. Il salue également l'intervention militaire de l'OTAN qui a sauvé des vies humaines. Nous l'écoutons et nous allons laisser nos invités réagir.
Bonsoir, je m'appelle Nassirou Aliou, j'habite à Vitatou, dans le canton de Zurich, en Suisse. Je voudrais donner mon point de vue sur l'intervention de l'OTAN en Libye. En effet, en tant qu'Africain qui lutte comme la majorité des Africains pour l'avènement sincère de la démocratie dans nos pays, je ne peux que saluer l'intervention de la communauté internationale pour faire partir le dictateur Kadhafi. Quand le vent de révolte qui souffle sur le monde arabe et qui a déjà balayé les pouvoirs autoritaires en Tunisie et en Égypte a touché les guides libyens, qu'est-ce qu'il a fait ? En réaction, Kadhafi s'est lancé dans une campagne de répression implacable pour mettre un terme aux manifestations. Kadhafi et ses fils vont coordonner des tueries atroces de la population civile. Face à cette situation, la communauté internationale ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle ne pouvait pas laisser les civils se faire massacrer. Il y avait un devoir d'ingérence de la part de la communauté internationale. Alors, comment refuser au peuple libyen le droit de se révolter face à une dictature qui durait plus de 40 ans? Aucune publication ne pouvait exister en Libye sans l'accord d'un organisme dénommé One Nine Group, qui est intimement lié au premier cercle de sa famille. Le petit commerce, notamment les nombreuses boutiques qui existent en Libye, était contrôlé par la deuxième épouse de Kadhafi, Safia, et leur fille Aïcha. Il n'existait pas en Libye de législation qui met des limites au cumul de richesses et aucune loi n'encadre d'éventuels conflits d'intérêts. À côté de cela, il n'existait pas en Libye un parti politique organisé, ni syndicat, ni association. Cette même mise sur l'économie qui permettait à Kadhafi de tirer de confortables ressources pour l'exercice de sa dictature ne pouvait continuer. Même en Tunisie, il existait un milieu d'affaires et un secteur privé qui pouvait donner une impression de liberté économique. Bref, je dirais que la Libye présentait tous les attributs de la dictature. Je voudrais finir pour dire que bon nombre de pays africains sont dirigés par des dictatures comme au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun, etc., que Kadhafi n'a pas hésité à financer pour renforcer leur pouvoir. Ces dictateurs continuent par réprimer leur peuple, à les priver de liberté avec les moyens de Kadhafi. Pourquoi ne pas saluer la chute de Kadhafi? L'intervention de l'OTAN, en particulier de la France, n'a rien à voir avec un quelconque néocolonialisme. Je voudrais enfin finir en rappelant que durant des décennies, nous avons reproché particulièrement à la France de soutenir coûte que coûte des vieux régimes autoritaires, notamment celui de Adamawa au Togo ou de celui de Bongo au Gabon. Pourquoi en voulant l'OTAN et la France d'intervenir militairement pour instaurer la démocratie? Je voudrais saluer le travail que vous faites par l'intermédiaire de l'émission Fenêtre sur l'Afrique et je souhaite qu'il y ait de temps en temps beaucoup des départs comme ça pour permettre à tous les Africains qui sont épris de la démocratie à s'exprimer. Je vous souhaite beaucoup de courage. Au revoir.
Eh bien là, c'était l'opinion de Nassiru Aliou, un de nos auditeurs que nous avons enregistré 45 minutes avant cette émission. Alors, tout de suite, votre réaction, Monsieur André Lombé.
Bonsoir, Monsieur Nassiru Aliou. C'est comme ça qu'il s'appelle.
Oui, il s'appelle Nassiru Aliou.
Ouais, la question porte sur le soutien à des dictatures en Afrique. Si nous parlons de Kadhafi qui soutient les dictatures, nous devons aussi parler des autres chefs d'État occidentaux qui ont soutenu pendant très longtemps des dictatures. Ma question, c'est de savoir pourquoi depuis tout ce temps, on n'a pas utilisé les moyens de l'OTAN pour attaquer ces pays qui ont soutenu des dictatures. Je vous cite par exemple de tête, il y a Mobutu qui était soutenu pendant très longtemps par des puissances occidentales. Plusieurs pays ont soutenu des dictatures en Afrique. Quand vous évoquez Kadhafi n'a pas soutenu des dictatures pour des dictatures. Kadhafi a soutenu des projets au niveau de l'Afrique. Kadhafi a soutenu par le développement beaucoup de projets que dans des pays comme en République centrafricaine, comme au Tchad, comme au Soudan. Donc Kadhafi n'a pas soutenu des personnes, il a soutenu des projets. Un exemple que Monsieur Mouketou a donné tout à l'heure.
Docteur Jamé Mouketou
de la France, c'est par exemple les satellites de Rascom. Vous savez ce que ça représente, le désenclavement d'un pays par rapport au système de communication. Ça ressemble tout le système de communication, de développement d'un pays repose sur la communication. Il y a la communication routière à l'intérieur du pays, mais il y a aussi la communication vocale entre les peuples, entre les régions. Et là, c'est ce que Kadhafi a fait pour les Africains.
Merci à Dr. André Lombé. Avant de donner la parole à Kofi Folikpo, nous allons plutôt laisser réagir Dr. Yves Ekweyamahizo. Je pense qu'il est toujours là en direct depuis Vienne. Dr. Yves Ekweyamahizo.
Oui, merci. Écoutez, moi, sur ce dossier tel qu'il se présente maintenant, il faut être clair. Vous avez affaire à quelqu'un qui est là depuis plus de 40 ans et qui est à multifacette. Donc, bien sûr, quand vous prenez telle ou telle facette, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. C'est vrai que Kadhafi a financé des projets, mais je peux vous dire que Kadhafi a financé des individus et des États. Kadhafi, par ses fonds souverains, ne choisit pas n'importe quel projet. Il choisit des projets dans lesquels il y a une rentabilité extraordinaire. Dans l'hôtellerie, par exemple, dans les propriétés, il s'est approprié beaucoup de sols africains. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'au fond, ça profitait à d'autres dictatures africaines. C'est en cela que l'intervention de votre auditeur reste valable. Il s'agit quelque part quand même de quelqu'un qui a fait 42 ans. Si vous prenez un mandat de 2 fois 5 ans, ça en fait 10, 2 fois 7, ça fait 14, mais on en a 42. Donc la question est de savoir si quelqu'un au-delà de deux mandats, sincèrement, doit être appelé quelqu'un qui reste au pouvoir, un autoritarisme, voire une dictature. Et s'il était parti plus tôt, d'ailleurs son fils qui a fait l'Autriche, lui avait proposé depuis longtemps de mettre une constitution, de mettre une démocratie en place, c'est lui qui a refusé. Donc l'argument comme quoi il est quelque part une dictature, quelle que soit la définition qu'on peut lui donner, moi ma définition est très simple, plus de deux mandats, on rentre dans une forme d'autoritarisme, de dictature qui finit toujours relativement mal. La deuxième chose, il faut préparer l'après-Kadhafi. Même en son temps, ça n'a pas été fait. Au contraire, on a entendu cette fois-ci, quand des velléités d'opposition, voire de liberté sont venues de Benghazi, qu'il faut tout simplement éradiquer les gens. C'est ça qui est expliqué, c'était l'erreur fondamentale. Et ce n'est pas une erreur puisque ça pose le problème de savoir si l'individu, si l'OTAN n'était pas intervenu, si laissons de côté le côté colonial, le côté de savoir s'ils veulent les matières premières, etc. Ils le veulent, on le sait, ils font tout ça pour leurs matières premières, pour leurs intérêts, et souvent aux dépens des populations africaines. Donc, mettons de côté cette histoire. Maintenant, regardons à la vérité en face. La vérité est que s'il n'y avait pas eu intervention, vous aurez aujourd'hui Kadhafi au pouvoir. Mais si vous avez Kadhafi au pouvoir, vous soutenez l'ensemble des dictatures qui, eux, profitent de Kadhafi. Je vous rappelle que Kadhafi, quand il y a eu des problèmes au Nigeria, c'est même moi qui suis intervenu sur la Radio France Internationale là-dessus, et Kadhafi avait demandé qu'on coupe le Nigeria en deux parce qu'il y avait des problèmes soit d'ethnique, soit de religion. Et vous constaterez aussi que Kadhafi met plus d'argent dans les pays
pour lui choisi, donc islamique, où il y a des musulmans. Même au Togo, par exemple, c'est surtout la partie des musulmans qui l'intéresse. Même s'il vient se promener ou envoie des émissaires au Togo, à Lomé. Donc sachez quand même que tout ceci, n'est dans un contexte plus global, avait un objectif très bizarre qui consistait finalement à agrandir un sort de pan-arabisme et non pas pan-africanisme.
Mmh.
Et donc, beaucoup de gens... J'étais expert, moi, pour le Fonds monétaire africain.
Mmh.
C'était moi qui ai lancé une partie des termes de référence, notamment du RAPSCOM, dont on parle satellitaire.
Mmh. Mmh.
Il a entièrement raison quand il dit que... Mmh. Au moins dans l'objectif et la vision, et même l'argent, il était déterminé. Sauf qu'il y avait un grand problème. Un grand problème était comment ce contrôle se faisait.
Docteur Yves Kouyamaïso, nous allons revenir tout de suite encore vers vous, le temps de marquer une petite pause. Hein, et restez toujours en ligne. J'espère que docteur Aimé Moukoutou aussi va rester en ligne. A tout de suite alors.
Bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Eh bien, nous sommes encore une fois dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique et nous débattons du thème l'intervention militaire de l'OTAN est-elle nécessaire et pour instaurer la démocratie en Libye et comme je le disais, nous avons en direct depuis la France docteur Jean-Aimé Moukétou, il est gabonais, professeur qualifié pour l'enseignement en Nouvelle-Écosse, docteur Yves Kouyamaïso en direct depuis Vienne, il est docteur également en économie, consultant international et directeur du groupe de réflexion et d'action Afrologie. Au studio, même, nous avons M. André Luambe, il est centrafricain, il est docteur ingénieur en télécommunication. Il est également vice-président du CRAN, carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir, et une association qui est basée ici même en Suisse. Également au studio, M. Kofi Folikbo, et je l'avais annoncé, Gilbert Kouissi, porte-parole de la diaspora béninoise en France, membre de président du PCB, Parti communiste, et va nous rejoindre dans quelques minutes dans ce débat. Alors, je vais tout de suite donner la parole maintenant à M. Kofi Folikbo de réagir surtout par rapport à la position de notre auditeur qui pense que Kadhafi a soutenu les dictateurs, que Kadhafi doit déjà quand même laisser le pouvoir, doit quitter.
Et merci. Évidemment, moi... ou à notre niveau, nous considérons que les maladresses accumulées par le guide libyen Muammar Kadhafi sont innombrables en ce qui concerne sa vision pour l'intégration économique et politique de l'Afrique et aussi dans sa façon de proposer des solutions pour la résolution des conflits à l'échelle internationale. Et nous estimons que c'était déjà maladroit de sa part de considérer que l'intégration économique et politique de l'Afrique ne peut jamais se faire sans lui. Kadhafi... le guide libyen aurait dû comprendre que quelque part avant son avènement, il y avait d'autres personnalités telles que notre père spirituel, je veux nommer ici Marcus Garvey, qui avait une vision un peu plus lointaine du panafricanisme et que quelque part, quand le moment était venu et que Garvey devait s'éclipser, il a compris qu'il fallait s'éclipser. Donc, Kadhafi n'avait pas compris cela comme ça. C'était une première maladresse. Deuxième maladresse, comme l'auditeur l'avait souligné, soutenir ouvertement ces dictatures en Afrique, c'est dresser en quelque sorte les forces vives de ces pays africains contre les projets initiés ou bien qui étaient censés initier au profit de ces mêmes de ces mêmes peuples. Bon, et en quelque sorte, à un moment donné, les gens ne comprenaient donc plus ces actions.
Merci, Kofi et Folikpo. Avant de laisser Dr. André Luembe réagir aussi, j'ai aussi quand même une question qui va dans le même sens que notre auditeur. Et cela fait partie de notre préoccupation aussi à Fenêtre sur l'Afrique. Alors, vu ces soutiens aux dictateurs africains qui viennent quand même de lâcher Kadhafi, hein, est-ce que Kadhafi mérite-t-il encore le soutien des Africains dans cette guerre face à l'Occident et qui veut quand même, l'Occident qui veut quand même instaurer la démocratie en Libye, hein, ce que veulent évidemment les Africains, docteur André Luembe.
Bon, la première des choses, c'est de savoir ce que nous voulons en Afrique. Si nous définissons notre démocratie par rapport au modèle européen, c'est de dire, voilà, ça se passe comme ça dans les pays occidentaux, ça devrait se passer comme ça chez nous. Alors, je pense que là, nous sommes dans un débat purement théorique. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est, il faudrait, quand on veut juger une personne, on le juge sur son bilan. Il est resté, il est vrai, pendant très longtemps. Ça, c'est critiquable. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Il aurait préparé l'alternance, il aurait essayé d'organiser qu'il y ait une démocratie dans son pays. Si je laisse ça de côté, on va maintenant s'intéresser à son bilan. Qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple? Si nous regardons toute l'Afrique, nous comparons la Libye à tous les pays subsahariens, aux autres pays d'Afrique, est-ce que nous pouvons dire que ces populations, les populations libyennes, sont en train de souffrir par rapport aux populations qui sont soutenues par, entre guillemets, celui que nous qualifions aujourd'hui de dictateur? Je dirais qu'il a réussi à partager les fruits de la richesse de son pays avec son peuple. Il a réussi à élever le niveau de vie de son peuple. Et c'est ça que nous voulons en Afrique. Quel que soit le président que nous aurons demain en Afrique, il sera toujours critiquable. Et là, nous sommes dans un débat, comme je l'ai dit, nous glissons dans un débat théorique quand nous cherchons à avoir un chef d'État parfait, comme on nous a mis dans la tête que le chef d'État, il doit être... Il doit avoir, il doit passer dans cette moule, ou bien il doit passer dans ces critères.
Docteur Luembe, merci beaucoup. J'espère que Docteur Jean-Aimé Mouketou a quand même des réactions depuis la France. Docteur Aimé Mouketou.
Oui, moi je pense que votre auditeur, Monsieur Nassiro Aliou, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Exactement, oui.
Il a posé des questions. Et en posant ces questions, il a aussi apporté des réponses dans ses analyses. Je l'ai bien écouté. Vous voyez, par exemple, quand il dit que il y a des gens qui refusent au peuple libyen d'organiser une révolution face à un dictateur. Mais personne, je ne pense pas que mes collègues qui s'exprimaient tout à l'heure, qui sont sur votre antenne, sont les partisans de la dictature. Non, je ne le pense pas, je ne le crois même pas, messieurs. Et vous avez dit qu'il n'y avait pas de loi en Libye, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de syndicats. Mais, cher monsieur Nassiro Aliou, vous pourriez vous me dire, moi c'est la question que je vous pose, est-ce que les syndicats togolais, béninois, s'il vous plaît, gabonais, congolais, etc., centrafricains, sont-ils vraiment des syndicats qui travaillent dans l'indépendance totale? Je vous prends le cas de mon pays d'origine. Vous savez qu'en ce moment, il y a des leaders des syndicats des enseignants de l'enseignement au Gabon sont en grève de la faim. Pourquoi sont-ils en grève de la faim? Parce que le dictateur Ali Bongo Ondimba a coupé leur salaire. Vous voyez, est-ce que la France qui est allée intervenir en Libye pour, soi-disant, enraciner la démocratie, elle sera prête pour aller intervenir au Gabon pour protéger ces syndicats qui sont en train de gréver en ce moment devant la cathédrale Sainte-Marie? Vous nous dites qu'il n'y avait pas de loi. Mais des lois, c'est quoi une loi chez nous? Prenons le cas des constitutions. Si vous prenez la constitution togolaise, la constitution gabonaise, la constitution camerounaise, les constitutions des deux Congos, la constitution centrafricaine, etc., etc., ces constitutions, ce sont des véritables chiffons, vous me permettez l'expression. Prenez la constitution gabonaise. Entre 1990 jusqu'à nos jours, cette constitution a été modifiée pendant plus de 19 fois. Et prenez connaît la constitution américaine qui existe depuis je ne sais pas combien d'années. Vous allez voir que le Gabon a battu le record au niveau de la modification constitutionnelle.
Docteur André Lombé, je suis vraiment désolé. Nous allons quand même laisser ce côté-là, puisqu'on sort un petit peu du cadre du débat.
Non, je ne sors pas du cadre. Je suis dans... Vous savez...
Je vous comprends, je vous comprends.
L'auditeur a posé des questions pertinentes sur la loi, sur les syndicats, sur la politique. Bon, j'essaie un peu de répondre par rapport à ce qu'il a dit. Je ne sors pas de ce cadre-là. Tout ce que je voudrais dire, monsieur, si vous me permettez...
En 30 secondes, oui. Allez-y.
Je ne suis pas pour que les puissances occidentales nous imposent une conception de la dictature à géométrie variable. Voilà tout ce que je peux dire.
Merci. Restez toujours en ligne avec nous, M. Mouketou, ne quittez surtout plus, et surtout pas, pardon. Et alors, et je vais me retourner maintenant avec mes invités au studio, mais tout d'abord, il y a toujours Dr. Yves Ekwe-Amaizo qui est toujours en ligne à Vienne. J'espère qu'il est il patiente, parce que j'imagine déjà. Alors, Dr. Yves Ekwe-Amaizo, les organisations des droits de l'homme, en l'occurrence Amnesty International, viennent d'accuser le CNT de crimes contre les étrangers ressortissants, surtout des Africains, et qui ont la peau noire, je dis bien la peau noire, et qui sont assimilés à des mercenaires de Kadhafi en Libye. Est-ce qu'on peut dire là que l'OTAN a échoué dans son rôle de protection aux populations civiles en Libye, et les Africains noirs faisant quand même partie de cette population en Libye?
La réponse est oui. Sauf que l'OTAN n'avait pas pour objet d'aller protéger les civils noirs. Il faut savoir que pratiquement 25-30% de la population libyenne est noire. Il faut savoir que les gardes du corps de Guy Kadhafi et des Amazones étaient souvent des noirs. Donc vous voyez, le problème est que quand on touche le mot noir, il y a beaucoup de problèmes. L'essentiel de ces forces étaient des gens qui travaillaient, en fait, pour Kadhafi. Mais tout ceci rentre dans un amalgame. Il y avait des étrangers, des travailleurs étrangers noirs. Allez voir en Libye, j'y vais assez régulièrement, les poubelles. Quand vous ramassez les poubelles en Libye, c'est des noirs. Il faut le dire clairement. Vous allez chez les privés, les femmes de ménage, les gens qui font les jardins, ce sont souvent des noirs. Les droits, il n'y en a pas. Bon, la deuxième chose qui est très importante, on a égorgé beaucoup de noirs. Mais il y a eu nos États africains, parmi beaucoup de dictateurs d'ailleurs, pour se débarrasser et pour éviter des coups d'État, ont envoyé en formation, soi-disant, des Africains noirs pour aller se former chez Kadhafi. Et quand Kadhafi me proposait de doubler, tripler les salaires, ben, ces Noirs se mettaient à travailler pour lui. Et devenaient même des espions qui revenaient dans un certain nombre de nos pays. Il ne faut pas cacher cela. Maintenant, il y a eu aussi des mercenaires arabes, il y a eu des mercenaires blancs. Il y a eu des gens de Al-Qaïda qui ont travaillé pour les services secrets occidentaux, y compris France, y compris les Américains, qui sont changés et qui sont revenus pour travailler, soi-disant, pour le CNT. Donc il y a Al-Qaïda dans le CNT. Il faut y avoir les forces islamiques qui sont aussi dans le CNT. Donc je constate que CNT qui existe aujourd'hui est une CNT qui a une seule chose ou deux choses en commun. La première chose, c'est qu'ils détestent tous Kadhafi. Ça, on est au courant. La deuxième chose que les gens ne savent pas, c'est qu'ils détestent essentiellement les Noirs. Parce que vous n'allez pas voir les Noirs dans le CNT. Pourtant, il y a 30% de la population qui est noire et qu'on les égorge. Et que quand le Jean-Ping, le président de la Commission de l'Union africaine, est venu parler de ça à New York, à Washington, à Bruxelles et à Paris, aucune télévision, aucune radio, aucun journaliste n'a fait. Pourtant, on égorge des Noirs. Et je le répète, on égorge des Noirs.
Ce qui est vraiment déplorable, oui, oui.
Et qu'ils puissent savoir que quand ils disent qu'ils sont contents, il faut savoir que quand on fait de l'interventionnisme, il y a aussi de la discrimination vis-à-vis des Noirs. Maintenant, cela étant dit, je veux revenir sur un point qu'on a complètement oublié dans toute cette histoire et qui permet de mieux comprendre comment fonctionnent et Kadhafi et nos chefs d'État. Les peuples africains soutiennent le peuple libyen. Il faut qu'on soit clair dessus. Les peuples africains ne sont pas là pour soutenir un Kadhafi dictateur. Ils ont cru que ce Kadhafi amenait de l'argent. L'argent venait bloqué par les chefs d'État dictateurs chez nous. Qu'on soit clair. Les peuples n'ont jamais soutenu des individus. Ils ont soutenu quelqu'un qui vient les aider, en tout cas qu'ils croient les aider. Ça, c'est un. La deuxième chose, en Libye, là-bas, mais il y a la corruption. Une corruption endémique. Moi, je suis expert, je peux vous en parler. Kadhafi payait ses experts normalement.
Mais avec le temps, l'argent des experts était mangé par un groupe de corrompus qui était autour de lui. Et ça, c'était pour des expertises, disons, simples. Imaginez quand vous avez les grands contrats d'armement, les grands contrats de pétrole et de gaz. Regardez ce qui doit se passer. C'est très important que vous introduisiez la notion de corruption dans le système de Kadhafi. Et c'est cette corruption qui a fait que Kadhafi était lui-même en otage. Il ne pouvait en fait plus partir s'il le voulait. Et c'est cette corruption autour de lui, souvent derrière soi-disant le livre vert, qui ont fait que son fils même a eu beaucoup de problèmes et tous les démocrates qu'il a fait venir, que les Occidentaux ont refusé de soutenir. Ils ont refusé de soutenir les démocrates libyens. Il faut le dire tout haut. C'est pour ça que c'est très bizarre qu'on entende parler de Bernard-Henri Lévy, qui déjà à l'époque travailler avec Al-Qaïda pour les histoires de CNT. Faut pas qu'on se trompe. Il y a déjà tout un financement qui était fait, éventuellement par un groupe, on pourrait pas dire le nom, mais il faut le dire en fait, qui est souvent financé par les Juifs, et qui était déjà là pour penser en 2002 déjà de faire partir Kadhafi. Donc il faut arrêter de se pencher sur les points individuellement. Faites de la stratégie, voyez les choses de manière plus globale. Il y a un gros problème, c'est que les Africains sont incapables d'anticiper. Ils sont incapables de faire des analyses économiques prospectives pour savoir qui va demain venir manger chez eux. J'ai fait une étude récente où je démontre que l'ALU, où on est en train de vendre le sol africain, dont les pays, les fonds souverains qui avaient acheté d'ailleurs, en 2063, il n'y a plus un seul bout de terrain africain qui appartient aux Africains. Mettez-nous ça dans la tête. L'Afrique n'appartiendra plus aux Africains. C'est ça l'ingérence extérieure. Si quelqu'un soutient l'ingérence, il faut jusqu'au bout. Demandez à Nassirou Aliou, je suis d'accord avec lui, qui a la dictature, il faut le changer. Mais il y a deux mandats, au-delà de deux mandats, ça ne va pas. Mais est-ce qu'il faut laisser l'ingérence pour qu'en 2063, lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses grands-pères, ses arrière-grands-pères, la tombe de ses grands-pères, là où il est, ne lui appartient pas, qui répond à cette question.
Docteur, merci. Restez toujours en ligne. Deux minutes pour conclure. Je vais prendre tout de suite Docteur Aimé Mouketou depuis la France. Alors, Docteur Aimé Mouketou, et nous tirons pratiquement vers la fin de la première partie de ce grand débat. Et est-ce que l'OTAN a échoué dans son rôle de protection aux populations civiles en Libye? Hein, on parle des Africains qui sont laissés pour compte, on les torture. Docteur Aimé Mouketou.
Bon, écoutez, en deux minutes, puisque vous me les donnez, je vais essayer de les respecter. Je pense que les Africains, surtout les Africains noirs de Libye, ce qu'ils subissent aujourd'hui comme calvaire, ça ne me surprend pas, hein, puisque l'OTAN a un seul objectif, c'est d'aller contrôler les réserves de pétrole de la Libye. Et pour nous, les Africains, je crois que la question ne doit pas se poser par rapport à l'OTAN. La question doit se poser par rapport à l'Union africaine. C'est quoi l'Union africaine? Je vous laisse définir cette institution continentale. Pour moi, qui ne sert à rien. Vous voyez, quand il y a des guerres dans les États comme la Libye, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des problèmes des Américains, des Français, des Libyens, disons, des Italiens et les autres nationalités des puissances occidentales qui ont eu des problèmes pour qu'ils soient évacués de ce pays? Non. Les Nigérians, ils sont là-bas, les Maliens sont là-bas, les Tchadiens, ils sont là-bas, les Soudanais, etc., etc. Ils sont en train de subir la loi du CNT parce que nous avons une institution qu'on appelle l'Union africaine qui est incompétente, qui ne sait pas exactement pourquoi elle est là. Moi, ce qui m'écœure, ce qu'il faut dire, ce qui m'écœure, M. Sylvain Amos, c'est le comportement de nos dirigeants, voyez, de nos soi-disant présidents. Comment voulez-vous que le président, par exemple, nigérien, accepte que ses concitoyens soient massacrés en Libye? Qu'est-ce qui empêche ces présidents, par exemple, nigériens ou bien les autres, d'envoyer des avions aller récupérer ces Africains? Donc, in fine, je dirais que l'Afrique a un avenir. L'Afrique est un grand continent. L'Afrique, si vous voyez les différentes études qui ont été réalisées ou bien qui sont en train d'être réalisées, ce sera un grand continent d'avenir. L'Afrique sera, d'ici un siècle, une grande puissance, non seulement démographique, mais, croisons les doigts, l'Afrique risque de devenir aussi une grande puissance économique. Mmh. Et le débat est à ce niveau. Que font exactement les Africains? Que font exactement nos soi-disant chefs d'État?
Je vous remercie de m'avoir invité.
Docteur Aimé Mouketou, merci beaucoup. Je rappelle à nos fidèles auditeurs, auditrices de Radio Canal K dans Fenêtre sur l'Afrique que vous êtes d'origine gabonaise. Vous êtes docteur en géographie à l'Université Paris 7, professeur qualifié pour l'enseignement en Nouvelle-Écosse. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir été l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Alors, j'espère que docteur Yves Kouyamaïso est toujours en ligne depuis Vienne. Alors, docteur Yves Kouyamaïso, que direz-vous pour conclure ce débat sur la guerre en Libye?
Mais écoutez, il faut regarder toujours le futur. Le futur et le futur d'aujourd'hui. Il faut d'abord une transition avec tous les Libyens. Il faut élargir le Conseil national de transition avec tous les Libyens, tous les représentants des différentes parties de la Libye, y compris les Noirs Libyens. Ce nouveau Conseil national de transition, pour qu'il devienne démocratique, parce que le thème de votre sujet, c'est la démocratie, et il doit se doter de ce qu'on appelle une assemblée constituante. L'ensemble des comités populaires qui fonctionnaient sur une base de démocratie locale. C'est très important. Monsieur Nassino disait qu'il n'y avait rien. Non, il y avait une démocratie locale. Mais au niveau économique, il y avait une usurpation de Kadhafi pour l'argent. Donc il faut une assemblée constituante où l'ensemble des populations libyennes représentées doit pouvoir, soit sous forme de référendum, voter et valider ce Conseil national de transition. Parce que ce Conseil national de transition aujourd'hui, personne n'y fait attention, mais il n'est pas représentatif. C'est ce qu'a décidé deux pays, la France et la Grande-Bretagne essentiellement, en sous-main des États-Unis et l'OTAN en général et peut-être l'ONU. Mais au fond, il faut le valider. On n'est pas en Côte d'Ivoire où aujourd'hui il n'y a pas de parlement. Donc à la rigueur, la définition de cette dictature dont on parle, sous le plan seulement formel, il n'y a pas de parlement en Côte d'Ivoire, donc on peut conclure aussi qu'il y a une forme de dictature. Donc il faut une période de transition, 6, 9 mois, 12 mois, on peut en discuter, et peut-être qu'il faut réfléchir sur la notion de fédération. Vous êtes en Suisse, vous parlez de confédération chez vous, il faut peut-être penser à la notion de votation pour les Libyens, afin de réconcilier les Libyens entre eux-mêmes. Il faut cela, mais il faut aussi une deuxième chose très importante pour moi, c'est qu'il faut réconcilier les Libyens et les Africains. Parce que ce n'est pas clair la relation qu'il y a. Il faut quand même rappeler que Kadhafi a quand même mis des Africains noirs dans des charters, les a déposés sur les tarmacs de nos aéroports, puis les repartis. Et il l'a fait pour soutenir qui Sarkozy dans l'immigration choisie. N'oublions pas ça non plus. Donc c'est très important qu'il faut réconcilier les Libyens. On ne peut pas aller là-bas et être toujours les derniers et finalement être des esclaves là-bas et toujours continuer à ramasser les poubelles. Ah. Donc le dernier point, il faut simplement réapprendre à se connaître, à s'apprécier et surtout à se respecter. Parce que le rêve de l'unité africaine, de l'Union africaine, pourquoi il ne fonctionne pas? Moi j'étais expert pour ce Kadhafi, j'étais contre lui pour l'Union africaine et je le dis publiquement, j'ai toujours développé la thèse de l'interdépendance africaine. Et si on avait suivi l'interdépendance africaine aujourd'hui, il y aurait eu l'interdépendance libyenne. On aurait eu des facilités, ceux qui veulent avancer avant, ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'argent, mais ils attendent, ils viendront plus tard. Même l'Union européenne, c'est quelques-uns qui ont commencé avant. Et Kwame Nkrumah s'est trompé aussi dessus, en voulant l'unité. Il dit l'Afrique doit s'unir, bien sûr, mais elle doit s'unir sur des bases de l'interdépendance. Les uns qui peuvent aider les autres et qui se comprennent et qui se respectent, d'accord. Uh-huh. Mais on ne peut pas forcer, ni par le haut, indirectement ce que voulait faire Kadhafi, ni par incompréhension, en soutenant les dictatures, encore moins en oubliant les peuples africains. Et je finirai par le dernier mot. Les gens disent
30 secondes.
Qu'on est en train de soutenir les peuples africains. Sincèrement, allez sur le terrain. Je n'ai pas vu beaucoup d'endroits, malgré tout, concrètement, que Kadhafi a contribué à améliorer le pouvoir d'achat des Africains. Il a amélioré le pouvoir d'achat des dirigeants africains et beaucoup d'entre eux sont des dictatures. Et quand on soutient des dictatures qui, comme lui, ont refusé de quitter le pouvoir après deux mandats, sincèrement, il y a un problème. Mmh. Vouloir soutenir l'intervention extérieure ou l'ingérence, non.
Merci, merci beaucoup, docteur Yves Ekwe-Amaïso, d'avoir été également des nôtres au cours de la première partie de ce débat qui va quand même continuer avec nos invités au studio et monsieur Gilbert Koussi qui va nous rejoindre bientôt. Docteur Yves Ekwe-Amaïso est docteur en économie, consultant international et directeur du groupe de réflexion Afrologie et du groupe de réflexion et d'action Afrologie. Encore une fois, merci, merci et toutes nos salutations à nos compatriotes togolais branchés sur le www.kanaka.ca depuis Vienne, docteur.
Merci.
Nous sommes de retour maintenant au studio avec nos invités, mais avant de rentrer quand même, avant de continuer cette émission et pour et la seconde partie de ce débat, nous allons quand même marquer une pause musicale.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtres sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
J'ai usé de la fatigue, je suis essoufflé. J'ai vraiment soif de la paix. J'ai vraiment faim de la paix. Je voudrais être au sein de ma famille, me réjouir de la vie. Mais la guerre m'envahit, la tristesse m'envahit. La guerre a ravagé nos femmes et nos enfants, nos hommes ont péri. Il n'y a plus de vie pour nous, la vie n'a plus de sens. La guerre a ravagé. Quand il y a la guerre, ah, la vie n'a plus de sens, il n'y a plus de vie pour nous. Quand il y a la guerre, arrêtez, mes chers, arrêtez la guerre. Négocions pour la paix, arrêtons la guerre. Je voudrais que tout le monde soit en paix. Arrêtez, mes chers, arrêtez la guerre. Bam bam, arrêtez la guerre. Négocions pour la paix, arrêtons la guerre. Je voudrais que tout le monde soit en paix. Arrêtez, mes chers, arrêtez la guerre. Africa, la misère nous envahit. Africa, la misère nous envahit. Arrêtons de racheter les âmes. Africa, la misère nous envahit. Africa, la misère nous envahit. Arrêtons de racheter les âmes. Toi qui fabriques tous ces âmes, et toi qui rachètes tous ces âmes. Oh, vous êtes tous assassins. Bam bam, tous assassins. Toi qui fabriques tous ces âmes, et toi qui rachètes tous ces âmes. Oh, vous êtes tous assassins. Bam bam, tous assassins. Africa, la misère nous envahit. Africa, la misère nous envahit. Arrêtons de racheter ces âmes. Africa, la misère nous envahit. Africa, la misère nous envahit. Arrêtons de racheter ces âmes. Toi qui fabriques tous ces âmes, et toi qui rachètes tous ces âmes.
Africa, Africa, la misère nous envahit, chantée par Ami Coco, la chanteuse togolaise. Vous êtes dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique, une émission de débats politiques et culturels, panafricaine, j'allais dire aussi. Et nous débattons du thème, l'intervention militaire est-elle nécessaire? L'intervention militaire de l'OTAN est-elle nécessaire pour instaurer la démocratie en Libye? Et tout de suite, je l'avais annoncé que nous allons recevoir également comme invité M. Gilbert Kouessi, qui est porte-parole de la diaspora béninoise en France, membre influent du PCB, Parti communiste. Nous le recevons tout de suite puisqu'il est déjà en ligne. Bonsoir M. Gilbert Kouessi.
Oui, bonsoir.
Oui, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Vous nous avez suivi depuis la France en direct sur le www.canalk.ch.
Oui, oui, bien sûr. Oui,
et vous avez déjà une réaction, M. Gilbert Kouessi?
Oui, alors ce que moi j'aimerais dire, c'est que dans toutes ces questions-là, il faut toujours avoir des positions de principe. Comme ça, on est sûr de se tromper le moins possible. Ces positions, c'est quoi? Kadhafi, c'est un dictateur. Parce que moi, je n'aimerais pas qu'un pouvoir comme celui de Kadhafi s'installe dans mon pays. Kadhafi, c'est un autocrate. Je suis d'accord avec tout ça. Mais il appartient au peuple libyen de décider du sort de Kadhafi et non à d'autres. Tout ceci parce que moi, je suis contre le droit d'ingérence qui, sur le plan international, est le droit des plus forts d'intervenir sur les plus faibles. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne verrez pas le Bénin utiliser son droit d'ingérence pour venir intervenir en France. Vous ne verrez pas le Bénin utiliser son droit d'ingérence pour aller frapper les États-Unis. C'est toujours les plus forts qui viendront frapper les faibles. C'est pourquoi moi, je suis contre le droit d'ingérence. Donc, la résolution des Nations Unies qui a servi de prétexte pour pouvoir aller en Libye régler des comptes à Kadhafi, je suis contre. Et dans l'intitulé de vos questions, vous parlez de l'instauration de la démocratie en Libye. Mais il n'y a pas encore de démocratie en Libye. Mais même en Tunisie, où Ben Ali a été renversé, je regrette, il n'y a pas encore de démocratie. Même en Égypte, il n'y a pas encore de démocratie. La démocratie suppose qu'on ait institué un régime autre avec des élections où le peuple a ses représentants et son mot à dire. Même ces peuples, même la Tunisie et l'Égypte sont dans un processus, personne ne sait sur quoi tout ça va déboucher. En Libye, la guerre n'est pas terminée. Les gens qui ont fait cette guerre-là pour renverser Kadhafi, ils n'ont pas encore réussi à mettre la main sur Kadhafi. La Libye, c'est un pays immense. Personne ne sait ce qui se passe. Dans le sud de la Libye, on nous parle des villes côtières, Tripoli, Misrata et tout ça. Mais il y a le vaste interland libyen, personne ne sait ce qui se passe.
Oui, Gilbert aussi. Et je ne vous coupe pas, ne vous en faites pas, restez toujours en ligne avec nous. Hein. Nous allons prendre tout de suite un de nos auditeurs également, Jean Kassongo, en direct depuis la Belgique. Bonsoir Jean Kassongo.
Oui, bonsoir cher ami, bonsoir.
Et j'espère que vous nous avez suivi en direct sur le www depuis la Belgique.
Oui, je suis en train de suivre, d'ailleurs je suis étonné par beaucoup d'interventions. Comment ça se fait que beaucoup d'Africains ne comprennent pas encore ce qui se passe réellement? Il faut traiter le problème à l'origine, l'étiologie réellement de cette intervention militaire de l'OTAN. Vous savez que le monde occidental est totalement saturé, les économies sont saturées. Et qu'est-ce que vous essayez de faire maintenant? C'est d'aller s'accaparer gratuitement de nos richesses publiques. Le cas de Kadhafi, il ne faut pas croire qu'il y a eu un soulèvement populaire comme ils ont prétendu. C'était une affaire montée d'avance. Ils ont envoyé. Oui, c'est l'empire du mensonge même.
Oui, Monsieur Kassongo, et la communication n'est pas bonne. Hein, je vais tenter de vous rejoindre. Hein, ça ne vous en fait surtout pas. Je vais essayer de vous rejoindre parce que la communication n'est pas bonne.
Vous entendez mieux? Vous entendez mieux?
Oui, ça va mieux. Allez-y maintenant, on va voir.
Oui, ce que je voulais dire, il faut traiter le problème à l'origine, donc l'éthiologie réellement de l'intervention militaire de l'OTAN là-bas. Ce qu'il faut comprendre, nous les Africains, c'est très important. Il y a eu le problème en Libye. Pourquoi? Parce que la Libye a le pétrole. Les économies des pays occidentaux sont totalement saturées. Les employés, les salaires sont tellement élevés qu'ils ne savent plus essayer de. Ils savent plus rien faire par rapport à leurs économies. Ils sont totalement saturés. Ce qu'ils essayent de faire maintenant, après 50 ans d'indépendance de nos pays, soi-disant indépendance, ils essaient de s'accaparer gratuitement de nos richesses. Alors, ils cherchent des prétextes par tous les moyens pour aller frapper nos pays et reprendre la colonisation. Et dans leur mode opératoire, ils utilisent toujours des frères africains, donc les autochtones du pays. Et ils ont fait ça avec le CNT. J'ai entendu tout à l'heure un de nos amis qui disait qu'il parlait du CNT, etc. Il faut reconcilier les Libyens. Mais les Libyens ils vivaient beaucoup mieux que les Européens même. À quoi bon d'aller les frapper pour s'accaparer de leur richesse? C'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est carrément du mensonge. C'est l'empire du mensonge ici en Europe. C'est ce que j'allais vraiment dire. Il faut comprendre ça.
Jean Kassongo, oui, restez toujours en direct avec nous depuis la Belgique. Nous allons laisser maintenant réagir et docteur Jean Luembe qui est au studio, docteur André Luembe.
Merci de m'avoir donné la parole. Je pense que ce que mon prédécesseur vient de dire est tout à fait correct. Je pense que dans la première partie du débat, nous avons essayé d'analyser la situation de manière globale, mais nous n'avons pas dans notre analyse, il y a eu un glissement, je crois, je l'ai dit au début, dans un domaine plutôt théorique. Nous ne sommes pas allés jusqu'au fond de voir quel est l'impact de cette intervention sur le continent africain. Quel est le but caché derrière? Beaucoup d'observateurs et d'analystes disent que, évidemment, il y a trois Il y a trois buts qui sont là. Le premier but, effectivement, on en voulait à la personne de Kadhafi, qui ne se met pas à genoux devant n'importe qui. Kadhafi, c'est quelqu'un qui a compris les stratégies, la méthode de soumission des colons. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, elle est économique. C'est ce qui a été dit par mon prédécesseur. C'est de pouvoir, puisqu'ils ont maintenant des difficultés au niveau de leur pays, comment faire? Puisqu'ils n'ont plus d'idées. Il y a un pays qui a des richesses. On a essayé de signer des contrats avec lui. Ces contrats n'ont pas permis de régler la situation. Mais il faut aller à la source. Maintenant, on est parti à la source. La troisième raison, elle est géopolitique. Cette raison géopolitique, elle est très, très, très importante.
Et je pense que je ne vais pas quand même laisser qu'on doit monopoliser la parole, mais si vous voulez continuer, je laisse réagir à Koffi Folikpo d'abord. Oui, allez-y, monsieur Koffi Folikpo.
Ben justement, merci beaucoup à mon frère l'OMB d'avoir abordé l'aspect géopolitique, parce que c'est ça au fait ce qui constitue l'un des points forts de cette intervention de l'OTAN aujourd'hui là-bas en Libye. Notamment, avant même que les Occidentaux, notamment la France, ne pensent à faire déployer l'OTAN là-bas en Libye, on avait essayé de signaler déjà au Maghreb, à tout le Maghreb, que bon, ben, vous savez, nous, les Européens, nous allons vous absorber. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu à fabriquer de toutes pièces un construct, ce qu'ils ont appelé l'Union pour la Méditerranée. Bon, cette Union pour la Méditerranée qui a été mise en place le 13 juillet 2008. Et puis, bon, le 14 juillet 2008, bon, voilà Sarkozy qui invite tous les chefs d'État membres de l'Union pour la Méditerranée à venir défiler dans les Champs-Élysées à Paris. Bon, donc, c'est pour dire... Donnez-moi juste encore...
30 secondes, oui.
Voilà, voilà. Bon, c'est juste pour dire que l'aspect géopolitique est très, 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 très fondamental dans l'intervention de l'OTAN là-bas en Libye. Et c'est juste pour dire aux autres que, bon, vous savez, ce qui vient de se passer là-bas en Libye, bon, peut aussi vous arriver si vous ne vous mettez pas au pas là-bas en Afrique.
Merci Koffi Folikpo, et nous allons toujours parler de l'OTAN. Et là, tout de suite, je pense que Gilbert Koussi est toujours en ligne depuis la France. Hein, et se basant sur la résolution de 1973, les Nations Unies ont autorisé les frappes de l'OTAN qui ont contribué à la chute de Kadhafi. Hein. Alors, beaucoup d'Africains et d'observateurs internationaux aussi se posent des questions sur l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est une armée de l'ONU, et Gibek aussi?
Mais non. C'est-à-dire que quand vous vous rappelez la manière dont tout ça s'est passé au niveau de l'ONU, même cette résolution, comment les gens, la France, l'Angleterre, ont poussé à l'adoption de cette résolution, dont l'objectif affiché, c'est-à-dire qu'on nous a présenté, c'est d'aller protéger les populations, d'abord de Benghazi, après de toute la Libye, et puis après comment on a commencé à dévier tout ça. Et on était obligés, parce que le problème c'est quoi? La France aujourd'hui, c'est un pays de moyenne puissance qui n'a plus les moyens de sa politique. Et Sarkozy, en donnant l'impression de prendre la tête, la France n'avait pas les moyens d'appliquer cette résolution-là. Donc, avec l'Angleterre, non plus, les deux pays-là ne pouvaient pas. Donc, ils ont été obligés de s'appuyer sur leur bras armé qui est l'OTAN. Je rappelle que l'OTAN avait été créé pour contrer le pacte de Varsovie du temps de l'Union soviétique qui n'existe plus. Donc normalement même aujourd'hui, l'OTAN n'a plus de raison d'être. Mais c'est devenu aujourd'hui un instrument aux mains donc de grandes puissances des États-Unis, la France, l'Angleterre, pour résoudre collectivement les problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre individuellement. Donc on a vu de la protection des populations, on est allé subrepticement, il faut renverser Kadhafi. Et à un moment donné même où l'Union africaine disait qu'il faut une solution négociée, mais
la France, les États-Unis disaient non, il n'y a plus de négociations possibles.
Uh-huh.
Donc, ils parlaient au nom du peuple libyen. Donc, ces États-là se présentaient comme des États philanthropes. Ça n'existe pas. Sur, uh-huh. du point de vue international, il n'y a pas d'État philanthrope.
Uh-huh. Merci.
Ils sont aussi des États philanthropes, mais il y a plein de pays qui sont coupés sur des dictatures.
Uh-huh.
Mais l'Arabie Saoudite, vous ne me direz pas que c'est une démocratie. À Gaza, tout près, on a un peuple qui est en prison, là, qui n'a même pas le droit de visite. Quand des bateaux viennent les visiter, on tire sur ces bateaux-là. Mais si ces gens sont des philanthropes, il y a des causes à défendre.
Uh-huh.
Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand notre auditeur Nassir disait que Kadhafi est une dictature, les gens ont raison de choses. Non, il ne faut pas raisonner comme ça, il faut se baser sur les principes. Parce qu'il y a trop de dictatures à travers le monde. Pourquoi on va là?
Le problème,
Le
problème, c'est que 42 ans de système dictatorial, hein, est-ce que vous ne pensez pas quand même que Kadhafi aurait tôt pris la décision de faire une ouverture démocratique en Libye?
Oui. Alors, je vais vous dire, vous avez raison.
Vous avez 8 minutes.
Mais ça, c'est un autre problème. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'il y a eu une agression des mercenaires au Bénin en 1977 avec Bob Denard. Quand l'avion est venu, nous, par exemple, nous avons lancé le mot d'ordre d'union de tout le peuple contre l'agression étrangère, y compris en alliance avec Kérékou. Nous, on était opposés à Kérékou, mais nous disons que ce n'est pas les étrangers qui doivent venir l'enlever de là, parce qu'après, vous n'avez pas droit. La démocratie ne s'octroie pas. Elle se conquiert. C'est le peuple qui conquiert la démocratie. Si quelqu'un vient vous donner la démocratie sur un plateau, il vous impose ce que vous devez faire demain. Ça, c'est des questions de principe. Ça ne se négocie pas. Ces questions-là ne se négocient pas. Et si vous êtes démocrate, vous dites, monsieur, aidez-moi politiquement,
uh-huh.
faites la propagande contre mon dictateur,
uh-huh.
mais à l'intérieur du pays, uh-huh. je m'en occupe. Notre peuple s'en occupe.
Merci beaucoup.
L'aide uh-huh. doit être politique.
Uh-huh. Merci.
Propagandiste, mais pas militaire.
Uh-huh.
Après, vous n'avez plus d'autorité. Mmh.
Merci beaucoup, et monsieur Gilbert Kouessi, et merci quand même d'avoir été des nôtres en direct depuis la France. Merci, ce débat continue quand même sur Radio Canal K. Nous allons prendre maintenant Jacques Kassongo depuis la Belgique. Hein. Je pense que Jacques Kassongo est toujours en ligne. Hein.
Oui, je suis toujours en ligne.
Et votre réaction, oui.
Oui, en fait.
Oui, allô? Ah là là, et la communication n'est pas bonne depuis la Belgique avec Jean Kassongo, mais on revient tout de suite avec nos invités qui sont en studio, docteur André Luambe. Et 42 ans de système dictatorial, je viens de poser cette question aussi à oui, Gilbert Kouessi. Oui. Hein. Mm-hmm. Ne pensez-vous pas quand même que Kadhafi aurait tout pris la décision de faire une ouverture démocratique en Libye?
Oui, je pense que effectivement, quand on analyse bien la situation, on se dit au fait, la personne s'est accaparée, il voulait s'accrocher au pouvoir. Effectivement, il aurait pu organiser ça. Je le dis, il aurait pu organiser ça. Il l'a pas fait. Alors maintenant, la question c'est de savoir, il l'a pas fait. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons que la personne organise des élections pour les élections, ou nous voulons que le peuple vive bien. Qu'est-ce qu'il a fait sur le domaine de la santé ? Qu'est-ce qu'il a fait dans le domaine de l'éducation ? L'alternance, elle est importante. Je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas que dans un pays, il doit pas avoir l'alternance. L'alternance est importante, mais le système même de démocratie doit appartenir au peuple. Le peuple doit dire exactement comment il veut être dirigé, comment il veut s'organiser. Il n'appartient pas à un autre pays de dire « maintenant vous êtes resté longtemps, vous devez partir ». Là, effectivement, ce droit d'ingérence, ce droit de vie et de mort sur les peuples africains, nous devons tous nous lever et dire « non, ne voulons pas ». Voilà.
– Avant de laisser Kofi Folikpo réagir également dans ce débat, et la ligne est à présent ouverte. Hein, vous pouvez, et vous qui les suivez en direct depuis peut-être Lagos, Accra, Allemagne, en France, vous pouvez déjà participer à ce grand débat. Hein, et vous pouvez nous appeler au 00 41 62 834 90 80 et 00 41 62 834 90 80. Vous pouvez quand même apporter vos contributions, vos critiques dans ce débat. Et tout de suite, nous avons également notre collaborateur Romain qui vient de nous rejoindre pour participer également à ce débat. Et Romain, rebonsoir.
Oui, bonsoir, chers confrères. Sans toutefois tarder, parce que je ne vais pas monopoliser la ligne, je voudrais saluer l'intervention des uns et des autres, plus particulièrement celle de M. Amaïzo, mais en même temps, je voudrais émettre des réserves. Des réserves pourquoi ? Parce qu'en réalité, si je me base sur la résolution de 1973 de l'OTAN, qui constitue à aller protéger les citoyens libyens, il ne s'agissait pas de protéger des Libyens noirs ou des Libyens blancs. Il s'agissait tout court de protéger les Libyens. En contrepartie, je me dis, pour finir avec cet épisode, que l'OTAN doit aussi bien être trimballée à la TPI. Et pour principe, parce qu'on n'aura pas de résultat, mais pour principe, par les Africains noirs de la Libye pour non-assistance à personne en danger. Soit dit en passant, je recadre aujourd'hui le débat pour aller au-delà de la chute de Kadhafi et de repenser, est-ce que l'Afrique ou nous, en tant que continent, nous avons besoin de développement ou de démocratie ? Et si nous avons besoin de développement, je me dis que Kadhafi en a fait. Il ne s'agit pas seulement de critiquer, mais d'aller à Tripoli, à Benghazi ou à Sirte, par exemple. Il y a eu des développements. Les Libyens ne vont pas à l'aventure. Ils mangeaient à leur faim. Mais par contre, quand nous comparons les systèmes du Japon, de la Chine, nous pensons qu'il y a la dictature implacable en Chine et au Japon, mais cela n'a pas empêcher le développement économique. Aujourd'hui, le Japon est devenu un géant. Les économistes ne peuvent pas le contester quand bien même il n'y a pas le respect individuel des droits de l'homme. Mais que cherchons-nous en Afrique ? Pourquoi nous laissons-nous, au-delà de cette résolution, de cette fameuse OTAN, nous envahir par les impérialistes impénitents qui, en réalité, se partagent le usufruit de notre pouvoir ? Voilà pourquoi l'Afrique même doit savoir ce qu'elle cherche. Nous n'avons pas des routes, nous n'avons pas des hôpitaux. Je ne peux pas comprendre que nous puissions laisser nos avoirs à l'extérieur du pays. Mais en même temps, je respecte en tant que démocrate l'alternance et je me dis que Kadhafi doit partir. Mais en même temps, je vous tiens informé qu'à l'instant où nous parlons, il y a de violentes contre-attaques des personnes de Kadhafi à Bani Walid. Ce ne sera pas facile, l'après-Kadhafi.
Merci quand même pour cette contribution dans ce grand débat de Fenêtre sur l'Afrique. Le thème, c'est l'intervention militaire de l'OTAN. Est-elle nécessaire pour instaurer la démocratie en Libye? Et je viens de vous le dire tantôt que la ligne est ouverte. Vous pouvez participer également à ce grand débat en composant le 0041 62 834 90 80, 0041 62 834 90 80. Ceux qui sont en Suisse, vous savez déjà, vous composez simplement le 062 834 90 80. Alors je reviens encore une fois vers mes invités au studio, docteur André Luembe. Alors écoutez, docteur André Luembe, quelles sont les conséquences que cette guerre en Libye peut avoir sur toute l'Afrique, et selon vous, est-ce que vous avez eu une approche de solution à proposer, docteur André Luembe?
Bon, je pense que les conséquences, même déjà au niveau de la Libye, commençons par la Libye avant de descendre en Afrique, ce qui se passe aujourd'hui risque d'être à l'image de ce qui s'est passé au Soudan, où on peut voir l'éclatement du pays, on peut avoir une sécession, il y aura une partie riche en pétrole qui sera sous contrôle d'un petit groupe et qui sera plus facilement exploité par les étrangers et par ceux qui sont venus faire la guerre, et il y aura une partie sud qui risque d'être assez délaissée. Donc c'est ce scénario. Nous risquons d'assister à ce scénario dans les années à venir, mais le temps nous dira. Les conséquences sur les pays africains, il y a eu des projets qui ont démarré. Ces projets risquent malheureusement de tomber à l'eau, les grands projets, parce que le monsieur, aussi dictateur soit-il, avait une vision. Et nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de l'idée que la personne a pour le développement de l'Afrique. Et n'étant plus là, ceux qui nous avaient pendant très longtemps dit que on ne peut pas le faire, les chemins de fer à travers l'Afrique, on ne peut pas le faire, ce sont avec son argent qu'il a distribué, qu'il peut partager avec sa population, pour le bien-être de sa population, et puis qu'il a soutenu certains projets, aurait pu amortir un certain développement au niveau de l'Afrique. Donc ça va manquer. Il manque, la chose qui va aussi manquer, c'est d'avoir un leader. Au niveau de l'Afrique, nous avons besoin d'une locomotive, quelqu'un qui tire l'Afrique vers le devant et qui est surtout une indépendance d'esprit.
J'espère que nous avons un auditeur en ligne, nous allons le prendre. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir, Amos.
Oui, bonsoir, comment allez-vous?
Bon, je vais très bien.
Oui, présentez-vous, vous nous appelez de la Suisse.
Non, j'appelle de l'Espagne.
De l'Espagne, comment allez-vous?
Bon, je vais très bien.
Uh-huh.
J'aimerais participer au débat.
Allez-y rapidement, vous avez environ 2 minutes, hein. allez-y. Oui,
c'est que moi je pense de la crise libyenne, il faut savoir qu'il y a eu une manipulation médiatique, parce que si vous avez, il y avait une fameuse prise de Tripoli,
uh-huh,
que tout le monde savait que ça a été déroulé au Qatar. Et de deux, l'incompétence de l'Union africaine, ça il faut le relever aussi, à savoir la médiation du président Thabo Mbeki,
uh-huh,
qu'on devait critiquer sévèrement parce que il n'avait pas les moyens de défendre les intérêts africains au sein du Conseil de sécurité.
Uh-huh.
Et de deux, moi je pense que le couple OTAN et le Conseil de sécurité est une menace pour la paix et la sécurité internationale.
Uh-huh.
Parce que si on voit la composition du Conseil de sécurité, on sait que nous savons très pertinemment que c'est un conseil, c'est un organe politique des Nations Unies qui fonctionne selon ses critères. Si on se réfère au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies concernant l'article 42, les articles 41 et 43, où ils définissent le caractère des interventions. Et c'est que moi j'aurais aimé qu'ils fassent que les pays membres au sein de l'Assemblée générale exige un contrôle judiciaire.
Uh-huh.
Un contrôle judiciaire pour pouvoir contrôler le fonctionnement du Conseil de sécurité.
Uh-huh.
On sait qu'on ne peut rien faire.
Merci.
On peut rien faire.
Uh-huh.
Les autres
uh-huh,
membres non permanents ne peuvent rien faire. Mais s'ils s'unissent pour demander au moins un contrôle judiciaire, là on pourrait voir ce qu'on peut faire pour.
Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Rappelez-moi encore une fois votre nom.
Je m'appelle Anissé, j'appelle dans le Dessoigne.
Merci beaucoup de nous suivre en direct sur le www.canalca.ca depuis l'Espagne.
Merci beaucoup.
Merci et bonne soirée à vous.
Ok, bonsoir.
Oui, et nous sommes toujours dans ce débat et nous tirons vers la fin également de ce débat. Alors, Monsieur Koffi Folikpo de Pyramid of Yébé, nous parlons des conséquences que cela peut y avoir sur l'Afrique et la Libye dans cette guerre.
Merci. Justement, nous savons que depuis l'effondrement du bloc communiste, l'Occident, qui repose essentiellement sur le capitalisme, a mis en place une théorie économique et géopolitique axée sur le chaos, le chaos géopolitique. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que bon, on crée le chaos chez les autres,
mmh,
et on vient jouer.
Je ne vous coupe pas, je reviens. Nous allons quand même donner la priorité à ceux d'auditeurs là.
Ah, merci.
Il est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous?
Ah, je vais bien, et vous?
Et vous nous appelez de quel pays déjà?
Ah, je vous appelle des États-Unis.
Des États-Unis. Votre nom?
Monsieur Yaouvi.
Monsieur Yaouvi, comment allez-vous?
Ça va bien.
Alors, vous avez 8 minutes parce que nous tirons vers la fin de ce débat. Allez, votre contribution, votre réaction rapidement.
Oui, je voudrais réagir rapidement sur l'intervention de Dr. Maïso, qui disait que les dictateurs africains envoient des contestataires en Libye pour étudier, ou alors que Kadhafi ne finance que des projets qui sont rentables en Afrique. Mais les Occidentaux font la même chose. L'intervention d'abord des Occidentaux en Côte d'Ivoire,
uh-huh,
et puis en Libye.
Uh-huh. Je remarque que vous êtes tout près de votre ordinateur. Éloignez-vous carrément, hein, éloignez-vous carrément. Vous avez encore 8 minutes, hein, éloignez-vous de l'ordinateur.
Uh-huh. Ok, oui, donc, je disais donc que l'intervention des Occidentaux d'abord en Côte d'Ivoire et puis en Libye ne fait que refléter un agenda caché pour l'Afrique.
Mmh.
Le message pour les Africains, c'est que vous ne pouvez plus rien faire sans nous.
Mmh.
Ça, c'est le message.
Merci. Si, allez-y, 2 secondes, oui.
Et si on ne réagit pas en tant qu'Africain, en tant que Panafricain, pour, je ne sais pas comment, mais si nous ne réagissons pas, je crois que serons toujours sous les bottes des Occidentaux.
Bref, Yaouvi, vous demandez l'unité africaine.
L'unité africaine.
Merci beaucoup en tout cas, Yaouvi, d'avoir appelé depuis les États-Unis et d'avoir quand même participé, contribué à ce grand débat. Merci encore une fois. Bonsoir chez vous. Hein.
Bonsoir.
Alors, Monsieur André Louembe, nous tirons vers la fin, pratiquement vers la fin de cette émission. Encore 4 minutes. Vous avez, disons, 2 minutes pour conclure. Et alors, que direz-vous pour conclure ce grand débat ce soir dans Fenêtre sur l'Afrique?
Je pense que les Africains doivent reprendre en main leur destin. S'ils le font pas, il y aura toujours ces interventions militaires. Il faudrait voir comment ce seraient les coudes pour empêcher ces interventions qui viennent détruire des vies humaines. Je crois que l'Afrique a beaucoup payé. Il a trop payé. Il y a beaucoup de sang qui ont coulé sur le continent africain. On a tué beaucoup de ressortissants africains uniquement pour des intérêts extérieurs. Alors là, il y a le problème qui se pose au niveau de l'Afrique, c'est celui de la gouvernance. Ce problème doit être résolu. L'autre problème qui doit être résolu au niveau de l'Afrique, c'est de voir que est-ce que nous allons continuer avec les divisions internes qui nous affaiblissent en mettant les uns, nos frères, en prison, nous chamaillant, alors que nous devons faire bloc vis-à-vis contre l'étranger qui vient nous agresser.
Merci beaucoup, docteur André Elouambe. Monsieur Kofi Folikpo, vous avez également 8 minutes pour conclure ce débat.
Merci beaucoup. Oui. Moi, je dois dire en conclusion que, au fait, les Occidentaux eux-mêmes sont conscients que le système qu'ils ont mis en place depuis un certain moment pour dominer le monde entier est actuellement en difficulté. Et ils savent que bon, tous les jeux de passe-passe qu'ils font actuellement ne peuvent pas permettre donc de sortir d'affaires. Mais on doit, en tant qu'Africain, comprendre que le jeu géopolitique tel qu'il a été dessiné juste après la Deuxième Guerre mondiale a changé de données, et que nous, en tant qu'Africains, avons le devoir de nous repositionner en fonction des nouvelles données.
Merci beaucoup, Kofi Folikpo. Merci à tous. tous les intervenants dans ce grand débat et de ce soir. Le thème était l'intervention militaire de l'OTAN est-elle nécessaire pour instaurer la démocratie en Libye. Le débat a été de taille quand même, et nous avons également eu beaucoup de mails que nos auditeurs viennent de nous envoyer. Malheureusement, le temps, on a eu 2 heures de temps pour cette émission. Et je pense que Dr André Luembe, Dr Jean-Aimé Mouketou, Dr Yves Kouya Maïso sont restés sur leur soif, ainsi que nos auditeurs. Et c'est un débat de taille quand même qui a besoin encore beaucoup plus de temps. Nous allons quand même revenir encore dans nos prochaines éditions sur la guerre en Libye, et qui quand même a beaucoup de conséquences sur l'Afrique. Alors merci à nos auditeurs, à l'auditeur depuis l'Espagne qui nous a eu depuis l'Espagne, également à Yaouvi depuis les États-Unis, également à Aliou Nassirou qui a quand même aussi apporté sa contribution. Merci. Vous pouvez réécouter cette émission dès déjà ce soir ou demain sur nos sites d'information panafricaine www.togocity.com, ici lomé.com, mo5togo-.com, cvu-togo-diaspora.com, et également www.africainternews.com. Merci, c'était Sylvain Amos, Gisela Rosato, Romain Koudodi, Fabi Kouassi, Rodrigue Lawson. Excellente soirée à toutes et à tous. Thank you.